Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission 100% football présentée par Eladji Makalou. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés pour cette émission 100% football. On a eu pas mal de football hein, et notamment un gros match en Ligue 1 hier soir, notamment on en parlait en off. Comment ça va Jason? Bonne semaine de football je suppose.
Bonne semaine ça a été, à part...
Bodø/Glimt.
Ouais.
À part Bodø/Glimt. on va y revenir, hein. Cette équipe norvégienne qui fait du mal à ses équipes européennes, en tout cas dernièrement, on a pu le voir. Mais sinon dans l'ensemble, ça allait?
Ça a été ce week-end, mais la semaine compliquée.
On va revenir sur tout ça, bien évidemment. Et j'aperçois un petit maillot du Paris Saint-Germain sur la droite. Et ça, avec un joli sourire, ça veut dire que la semaine a été bonne. La semaine a été bonne, Omar.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, la semaine a été bonne. Et voilà, franchement, hâte de débriefer cette semaine de football.
Merci Omar de ta présence et bien évidemment quand on parle de Marseille, on est obligé d'évoquer Monsieur Maxence qui a mis la chemise à rayures pour tout simplement aujourd'hui pour ce beau jour, non ?
C'était pas en hommage à l'Olympique de Marseille mais on va dire que ça fait plaisir de venir à lundi soir après une belle victoire, c'est assez rare pour être souligné, ça faisait un petit moment, on enchaînait les défaites, on venait après les Brest-OM, on venait après les Nantes-OM, OM-Nantes, c'était compliqué, donc là ça fait plaisir de revenir un peu plus avec le sourire.
En tout cas, on va vous débriefer tout ça. On a eu une belle semaine de football avec beaucoup de rebondissements, hein, comme on les aime. Et on va commencer directement avec le Paris Saint-Germain qui se sont imposés 1-0 face au Havre. C'était assez poussif quand même. En tout cas, en fin de match, ils pouvaient se faire égaliser. Ils se sont fait un peu peur, les Parisiens. Mais ça a quand même fonctionné. Qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation des Parisiens?
Oui, moi, j'ai trouvé une équipe de Paris, franchement... pas très efficace sur la surface de réparation, sur les moments de vérité, notamment avec le pénalty raté de Doué. Et aussi, bon...
Faut bien le préciser, hein, ça fait les 6 derniers pénaltys, il y en a 5 qui ont été loupés.
5, c'est énorme.
Et Vitinha en a loupé 2, il me semble. Dembélé en a loupé 2, et Désiré Doué 1, et Barcola 1.
Ouais, c'est énorme, c'est inquiétant, mais bon après ce que je dois retenir de positif, j'ai trouvé que Safonov il a fait une bonne prestation et pareil pour Zabarni, je trouvais voilà correct, donc c'est la seule chose de positif que je vais retenir de ce match contre le Havre, comme en conclusion victoire, voilà c'est l'essentiel, mais dans le contenu on repassera.
Merci Omar. Jason ?
Oui, une équipe de Paris à l'image de ces derniers temps, donc un peu poussif, comme après leur match de Ligue des Champions. Moi, je m'attendais franchement à un match assez dur, parce que gagner au Havre, c'est pas si simple, même si ça reste le Paris Saint-Germain. Comme Omar l'a souligné, un très bon Safonov qui permet de garder la cage inviolée. Et j'ai trouvé aussi Barcola assez intéressant dans ce match. Mais le problème pour le Paris Saint-Germain, c'est la question des pénaltys. Si un pénalty en Ligue des Champions, comment ça se passe? Qui tire? On ne sait même pas. Donc, pourtant, les joueurs en séance de pénaux sont très bons. Mais dans un match dans le temps réglementaire, je ne comprends pas s'ils ont plus de pression ou pas, mais manque d'efficacité.
En tout cas, ça paraît assez compliqué, hein, on peut le dire. En tout cas, eux qui n'ont pas perdu une séance de tir au but, hein, dernièrement, en tout cas en Ligue des Champions, ils n'en ont pas perdu, et même pour le Trophée des Champions.
Et face puis, Super Coupe d'Europe, ouais. Super Coupe intercontinentale, ouais. Contre les Brésiliens, contre Tottenham. Donc ouais. Franchement, c'est paradoxal hein, tout ça. Mais après, je pense que le côté, comme tu disais, il y a eu 5 échecs sur 4 tireurs différents. Faudrait que Luis Enrique il cible un mec en se disant jusqu'à la fin de saison, les pénaux, ça va être lui. Peu importe, il rate, il marque, c'est lui, c'est le tireur attitré. Parce que le fait de faire tourner comme ça, c'est aussi un peu pervers dans le côté où, ah là là, si je rate, je ne toucherai plus les pénaltys. Donc il y a un peu ce côté-là où...
Après, est-ce que aussi, c'est un peu pas, ça ressemble pas à la philosophie de Luis Enrique et ça déséquilibre aussi l'équipe d'en face, même si là, pour l'instant, ça les déséquilibre eux. Mais en tout cas, s'il y avait différents tireurs de pénalty à chaque fois, mais que... eux savent déjà qui va tirer avant le match. Genre
ouais, mais après, je pense que rôle, si t'es gardien dans un gros match avec des champions, tu prévois sur 4, 5, 6 tireurs déjà, tu vois. C'est pas des tireurs surprenants. C'est quand même des tireurs qu'on l'habitude, qu'on a déjà tiré sur les séances récentes du PSG. Donc t'as quand même une petite base de données. Après, je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, c'est quand même bien d'avoir un ou deux spécialistes dans l'exercice qui bougent pas. Comme Vitinha l'était avant, quand il enchaînait les pénaltys réussis et que sa série, elle a un peu.
Il aurait dû continuer, même.
Pour moi, après, bientôt, je pense qu'ils vont peut-être mettre Nuno Mendes, hein, qui sait, parce que Nuno Mendes, lui, quand il se pointe devant le point de pénalty, il allume.
Mais après, Nuno Mendes, on a peu de. On a peu de références.
C'est on l'a vu tirer
3-4 fois max, ouais, 5 fois
séance.
Avec le Portugal, voilà. Peut-être. C'est quand même léger par rapport à d'autres tireurs.
Après, moi, là où je rejoins Dijon, c'est quand même c'est bien placé à chaque fois qu'il tire. C'est lucarne gauche ou lucarne droite.
Ah oui, ça, c'est très très bien.
C'est très très bien. Donc je me dis.
Il
n'y
a pas de doute, quoi. Il ne se pose pas 30 questions.
Voilà, voilà. Lui, il allume. Voilà.
À partir du moment où il avait dans la lucarne, de toute façon.
Mais avant ce week-end, on se disait pareil de Désiré Doué, qui avait marqué tous ses pénaltys pour l'instant. Liverpool, toutes les finales.
Moi, Désiré Doué, tireur de pénalty, ça m'a jamais truqué.
Ouais, mais il en avait jamais raté un, quoi, en tout cas.
Lui, Barcola.
Ouais, Barcola, c'est sûr que c'est une mauvaise idée, lui. Tu vois déjà sa course d'élan, tu sais que.
Même Ousmane Dembélé, moi, je suis pas fan. Même Ousmane Dembélé, quand je le voyais tirer.
Moi, je regardais Vitinha. Je regardais Vitinha. Ça arrive de rater, c'est comme ça. Hein,
après, mais... Vitinha, depuis qu'il a changé sa façon de tirer, j'ai l'impression qu'il a perdu confiance en lui en séance de penalty. Et c'est de là qu'il a commencé à les rater. Parce que depuis qu'il arrête de faire son saut de cabri ou qu'il marchait pendant un moment où il a loupé une ou deux fois après par derrière, et d'un coup, il a changé totalement de façon de tirer. Et depuis, ça l'a perturbé, j'ai l'impression.
Ouais, je pense aussi que ça l'a perturbé. Et je pense qu'il doit revenir à l'ancien modèle. Mais bon. On va poursuivre, en tout cas le Paris Saint-Germain qui se sont imposés 1-0 et qui prennent 4 points d'avance sur leur adversaire direct ou indirect. Hein. On parle notamment des Lensois qui ont été tenus en échec face à Strasbourg. Les Lensois qui ont fait un beau match, voilà, qui n'ont pas été forcément récompensés. Bon, Strasbourg aussi a fait un bon match.
Ouais, c'était un vrai bon match.
C'était un bon match.
Ouais.
Mais Lens méritait, en vue des occasions, Lens.
Ouais, sur la fin, ça
m'aurait plus en deuxième mi-temps. Hein.
Ouais,
parce que la première mi-temps, elle est strasbourgeoise.
Bah, la première, ils ont les occasions aussi pour faire le break, hein,
ouais,
pour marquer. Hein.
Mais
pas au fond. Hein.
Strasbourg en a
quand
aussi.
Même des occasions.
Strasbourg en a aussi.
Oui. Et deuxième mi-temps, là.
Pour moi, le nul, il n'est pas illogique quand même. Enfin, tu vois, il y en a eu des deux côtés. Pour moi, c'est pas un braquage. C'est pas un braquage que fait Strasbourg à domicile. C'est toujours très dur d'aller jouer là-bas, mais c'est un match de très haut niveau, je trouve. Au niveau de l'intensité, au niveau techniquement, on voit les deux buts, ils sont magnifiques, que ce soit le Lensois Sangaré ou le Strasbourgeois Panicelli. Mais les deux buts sont magnifiques et c'était vraiment un très très bon match de Ligue 1.
Merci Maxence. Brest qui ont été réduits à 10, hein, et qui s'imposent 1-0 face à Metz. Metz qui sont encore Metz pourtant Brest qui ont été réduits à 10 dès la 13e minute, hein, et Metz ont eu près de 80 minutes à jouer à 10 contre 11 et ils n'ont pas réussi à mettre le moindre petit but.
Ouais.
Est-ce que vous pensez que avec cette prestation, est-ce que c'est des signes et que ça veut dire que vraiment, ils sont arrivés au bout du bout. Habib Diallo qui n'a plus confiance, en fait, parce qu'il a eu des occasions. Mais...
Pour moi, tu te relèves pas de ça. T'es à 11 contre 10 pendant tout le match, il y a 0-0, il reste 80
à
minutes
domicile.
À jouer, à domicile, contre pas une top équipe de Ligue 1, contre une équipe milieu de tableau, et t'arrives pas à ne serait-ce que garder le match nul. C'est quand même très très compliqué. C'est très très compliqué. D'ailleurs, je comprends pas le rouge, moi, si on peut y revenir à deux minutes. J'aime pas ce genre de carton rouge. Parce que je sais pas si vous avez vu l'action, mais c'est le latéral qui fait sa passe, donc qui touche la balle, et c'est en fin de passe, en fin de geste, quoi, qui finit sur le tibia adverse. Donc certes, la semelle est assez haute, mais elle est dans le geste et il touche le ballon. Donc en fait, s'il avait pas touché le ballon, il aurait eu rouge sans problème. Mais là, le fait qu'il fasse sa passe et que c'est en fin de passe que son pied retombe, je trouve ça me gêne un peu, moi. Moi, ça me dérange un peu dans l'esprit, en fait.
C'est dur. Après, il y a tellement de choses à dire sur ça. Moi, comme les mains dans la figure, si c'est pas volontaire,
ouais,
des fois c'est normal. Truc, maintenant
le
pénalty
du Havre la semaine dernière,
on abuse, ils se jettent par terre. Franchement, pour moi, ça, il n'y a pas faute. Tu vois, mais là, ça devient compliqué en tout cas.
En tout cas, pour moi, Metz, c'est du tout droit. Hein. Je pense que
comme d'hab, de toute façon,
ils vont faire comme les années précédentes, aller-retour, et ils vont prendre leur ticket de métro, et voilà. Mais ça, ça se sent bien. À domicile, si tu ne commences pas à prendre des points contre des équipes moyennes comme Brest, en plus réduit à 10, là, on ne peut plus rien faire pour toi.
Surtout qu'ils avaient enchaîné à un moment 3 matchs, 3 victoires.
Ouais, mais
une grosse bouffée d'air, hein, où ils sont revenus au contact.
Ils avaient battu Lens, ils avaient battu je sais plus qui, mais c'était des bonnes équipes.
Ouais,
mais...
c'était, ouais, en tout cas, d'un coup, et là, après ça, le néant. Simplement. En tout cas, là, c'est difficile pour. Ouais.
Et en parlant d'équipe dans cette range-là, le but encaissé par Nantes à la 93e face à Lille, c'est aussi des signes, ça. Ça, c'est des signes où tu arrives à tenir un match nul chez une équipe européenne qui revient de Ligue Europa 3 jours avant et tu prends le but à la 93e, tu te dis, c'est pas pour nous. Enfin, moi, pour, perso, Metz, Nantes, je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est condamné les deux. Et puis, on verra qui jouera les barrages entre Auxerre, PFC, etc. Mais pour moi, Nantes et Metz, c'est cuit.
Et après, je pense que c'est des équipes... Je trouve que voilà, c'est dommage. Des fois, ils ont montré quand même de bonnes choses, notamment Metz aussi face à Lens. Et là, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et moi, en tout cas, je ne les vois pas se maintenir en Ligue 1. Ça va être voilà, comme d'habitude, finalement. Ils descendent.
Et remontent. Nantes, alors ? Nantes, pour toi ? Parce Nantes... que depuis un moment, Nantes, ils jouent avec après, le feu. Hein. Là, tu penses que
ça va être... Ouais, depuis quelques saisons, même.
Ouais, depuis quelques saisons. Ouais. C'est pour ça, depuis un moment, quoi. Ils jouent avec le feu, du coup.
Ouais, et du coup, Nantes aussi, faire attention. Surtout que, voilà, j'ai vu que Paris FC, ils ont gagné aussi.
Comboiré qui est arrivé côté Paris FC.
Voilà, qui est arrivé. Et voilà, qui a signé une victoire contre Nice.
Le match était catastrophique.
Oui, la
prestation était horrible. Ah, la prestation était horrible.
Après, c'est Camboiré. Je m'attends pas à un football champagne.
Non, regarde, carrément, il a écarté le petit Lopez.
Ouais, ça joue trop ballon, ça.
Lui, il veut que du muscle.
Voilà, ouais. Et moi, en fait, en tant que Camboiré, quand je l'ai vu même à Nantes, moi, ça m'étonne même pas du personnage. Par contre, oui, Auxerre, même s'ils ont des bons joueurs comme Namaso, Sinayoko, faut faire attention. Hein. Moi aussi, là, je les sens un petit peu...
Ils ont pu accrocher un nul là contre une belle équipe.
De
Lorient, 2-2. Revenir au score, je crois. Ils sont revenus au score.
Ils ont mené deux fois.
Bamba Dieng aussi qui est en forme, Bamba Dieng qui revient bien. Ah, ça me fait penser un peu à ces joueurs marseillais qui réussissent un peu partout sauf à Marseille, quoi.
Ouais, après Bamba Dieng, on verra encore. Entre réussir à Lorient et réussir à l'OM, il y a quand même un step.
Ça fait un moment qu'il est endormi. Hein. Parce qu'à Angers,
ça fait 3 ans qu'il
n'a
rien fait du tout. Hein. Donc,
après, je pense quand tu ressors de Marseille, comment t'as été souillé un peu là-bas et que tu reviens, il faut quand même s'en remettre
Si Bamba Dieng réussissait à Séville ou à Rennes ou à Lille, je te dirais, ah ok, il y a peut-être un truc. Là, pour moi, Marseille n'a rien raté avec Bamba Dieng. Il n'a pas les épaules pour être numéro 9 de l'OM et je pense qu'il ne les aura jamais.
Là, il est dans un club mid, donc ça va. Il n'a pas de pression.
Il fait très calme avec sa saison.
Lorient, ça joue très bien dans leur petit stade.
Il a quand même ses petites stats quand même cette saison.
Je regardais ça exactement.
Après, moi, je rejoins, il a dit, Marseille, ils ont brûlé pas mal de joueurs.
Ah oui, c'est vrai. Mais c'est un débat parallèle, je veux dire.
Quand on regarde, par exemple, Eddyman Ndiaye,
que Bamba Dieng, en une saison de Ligue 1, là, il a 6 buts. Bien. Parce que là, on dit, ouais, c'est bien, il est à Lorient. S'il était à Marseille, qui était à 6 buts, ce serait dramatique, catastrophique, horrible. Tout le monde serait en train de l'insulter. Donc.
En combien de matchs ?
Il y a deux poids, deux mesures.
Parce qu'il n'est pas tout le temps titulaire. Hein.
Ouais, il a quand même joué un bon paquet de matchs. Je vais te dire ça tout de suite. Mais.
En tout cas, ces derniers temps, il commence à bien revenir. Voilà, et ça commence à... Voilà,
j'ai pas encore de regrets.
Je dis pas que vous aurez des regrets ou quoi. J'ai juste que... Voilà, ça reste
Après, il a eu sa chance à l'OM, hein, faut pas dire le contraire. Il a eu sa chance, il a joué beaucoup de matchs quand même. Après,
depuis reste qu'il est parti un joueur, de l'OM, il s'est pas encore révélé à être Samuel Eto'o tout de suite. Enfin, on a un peu de marge.
Non, il est sur une bonne série avec Lorient.
Il est sur une bonne série. Voilà. Mais pour moi, s'il y a un joueur à ressortir de chez Lorient, c'est pas lui. C'est Pablo Pagis. Pablo Pagis, c'est un step au-dessus, clairement. Lui, quand je le vois de toutes ces équipes-là, deuxième partie de tableau, on va dire, même si Lorient surperforme un peu cette année, c'est un des seuls où je me dis, lui, il peut aller jouer dans le top 3 Ligue 1, top 3, top 4 Ligue 1 sans forcer. Je vois un avenir.
Pas à l'OM déjà.
Pas forcément, pourquoi pas l'OM?
Non, bah, top 3, c'est sûr que ce sera pas l'OM.
Parce déjà. Que depuis quand?
Non, top 3, en tout cas, ce sera pas l'OM.
Parce que
tout
ça fait deux saisons d'affilée que t'es en top 3, hein, t'es même top 2 depuis deux saisons.
Ah, attention. Depuis que deux saisons.
Ah, mais peut-être la troisième ça, consécutive.
Top 2, oui. Je pense pas.
Mais avant ça, Pagis, il était U17.
Top 2.
Non, j'ai pas eu top 2.
Ah, d'accord. Okay, on est d'accord. D'accord, tu me parlais de top 2.
Non, mais tu vas pas m'avoir sur les paris. Hein. Ah, parce que
Philippe
attention.
Philippe qui vient de nous rejoindre.
Ça va, les gars?
Comment ça va, Philippe?
Ça va, ça va.
On parlait un peu du Paris Saint-Germain, un peu tout. Oui. On n'est pas rentré dans le dur.
On va diffuser le match. Hein. PSG-Chelsea, tu le sais, en direct.
Je l'apprends.
Et ben voilà. Donc, 11 mars, tu seras au commentaire à ITO pour PSG-Chelsea. Voilà, 11 mars. Et je viens d'apprendre aussi, moi.
Ok, bah voilà.
Donc on l'annonce aussi en direct sur
le bout du foot. En direct.
Direct mercredi 11 mars, PSG Chelsea avec Ella, GTO au commentaire. Plus un avant-match et un après-match.
C'est ça, ouais. Exactement. Du coup, on est en train de parler du Paris Saint-Germain. Oui. Et là, on allait rentrer dans le vif du sujet. Hein, et tu auras l'honneur d'introduire tout simplement cet Olympico qui s'est déroulé entre Marseille et oui. Lyon, qui s'est soldé par un 3-2 oui. grâce à un doublé de. Oui. Aubameyang et un super but de Pachao, ouais. un double passe décisif de Hendrick, but de Imber pour son anniversaire, et un but aussi de Tolisso, l'ancien taulier ouais. hein, tout simplement de l'OL, qui a aussi contribué à un petit but de sa part. Mais ça n'a pas suffi pour les Lyonnais et Marseille qui se relance.
Ouais, bah, ce qui me fait dire que d'abord que souvent les matchs Marseille-Lyon, les Olympicos sont souvent des très beaux matchs. Souvent. Ah. Quand on se rappelle un petit peu des affiches, il y a souvent eu des beaux matchs, comme quoi c'est bien les matchs de l'année, non plus une PSG-OM, comme on l'avait dit à un moment. Voilà, bah après Marseille, bah, qui avait souvent perdu des points dans les dernières minutes, dans les dernières secondes. Là, cette fois-ci, ça a été l'inverse. Voilà, après, je pense qu'il ne faut pas. Tant mieux pour nous, tant mieux pour le championnat. Il y a du suspense. Après, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités derrière dans ces clubs. Et ça peut être Marseille, ça peut être Lyon, ça peut être même les équipes qui suivent, qui peuvent encore laisser beaucoup de points sur des matchs face à des équipes un peu plus anodines. Donc, il ne faut pas trop s'emballer. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a vu un beau match de foot et on s'est régalé. Ça, c'est bien.
Ça, c'est bien, oui. Ouais. J'ai bien dit, parce qu'on s'est vraiment régalé.
Et tant mieux, ça relance un petit peu la bataille pour les places qualificatives oui, la Ligue des Champions. Vraiment. Entre Marseille, Lyon, et puis éventuellement les poursuivants, Lille-Rennes,
les consorts.
Voilà, surtout ça.
Oui, parce que ouais. Lens et PSG.
Oui, je pense que ça, c'est joué.
Les deux, c'est une bataille de titre, en tout cas. Jason, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match?
Franchement, hier, j'ai assisté à un très beau match. Ça a été un peu un match de ping-pong, même si pour moi, la première mi-temps a été en possession de Marseille. Marseille s'est fait un peu piquer de temps en temps en transition, là où je pense qu'il y a encore des lacunes défensives. Mais ça a travaillé avec le temps. Mais j'ai aimé la prestation de Wea, parce que Wea, il a récupéré un nombre incalculable de ballons en profondeur sur des transitions lyonnaises et l'entrée de Pachao. Pachao, une très belle entrée, c'est ce qui change la physionomie du match. Côté lyonnais, Hendrick, j'étais très impressionné par Hendrick sur son positionnement entre les lignes, ce qui a permis aux lyonnais de là, il a créé ses deux passes décisives et il a été très dangereux, surtout de haut but et sa façon de se tourner vite vers le but marseillais. Et sinon, dans la globalité, ouais, ça a été un très bon match avec des beaux buts.
Et c'est souvent, hein, les Lyon-Marseille, c'est souvent des beaux matchs.
Hein. Et souvent, il y a beaucoup de buts.
Ouais.
Et souvent, il y a beaucoup de buts. Et parce qu'au tout début du match, je me disais à quel moment les Olympiens allaient ouvrir le score, parce que le gardien de Lyon était en feu. Et sinon, ouais, et Tolisso toujours présent.
Ouais.
Tolisso, malgré tout, qu'il ne soit pas appelé en équipe de France, je ne sais pas pourquoi. Mais depuis le début de saison, il est irréprochable.
Ouais. Bon, moi, en tout cas, si Didier Deschamps nous écoute, mais je pense pas qu'il va nous écouter,
il faut
ramener Tolisso en équipe de France. Là. Pour moi, c'est peut-être l'une de ses meilleures saisons de sa carrière. Après, concernant le match, je rejoins Jason, c'était un très beau match, un match plaisant. Moi, je pense que Marseille, ils ont fait surtout la différence sur les côtés. Voilà, sur ça, et notamment voilà, Ahmed Junior Traoré, surtout Pachao. Et moi, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que voilà, on a d'anciens briscards comme Aubameyang qui montent la voie. Alors que voilà, c'est quelqu'un quand même qui a 36 ans et quand même, là où on attendait cette saison plus un Guerri, voire même un Greenwood pour confirmer sur ce genre de match, il a répondu présent comme ce week-end aussi, Giroud, et vraiment ça, je trouve ça pas mal.
Et surtout un Greenwood qui a été trop individualiste, je trouve, sur ce match. Ouais. Il a trop voulu faire la différence à lui tout seul. Et à des moments, il partait dans des slaloms, quitte à rentrer dans 2-3 joueurs. Et ça, c'était ouais. dommage, alors que le jeu n'amenait pas cette partition.
Ouais. Et tu parlais de Giroud, il y a un Marseille-Lille dans 3 semaines.
Ouais. Ouais.
Giroud qui vient au Vélodrome dans 3 semaines.
Ça va être intéressant, ça.
Et ça se trouve, Lille ouais. ira gagner, donc c'est pour ça que ça ne veut rien dire.
Ouais. Oui, c'est pour ça que... Ouais. Non, après, voilà, Greenwood, faut jouer simple, on va dire, garçon. Voilà.
Ouais, et puis surtout, il a été inefficace, parce que jouer comme un soliste comme ça, s'il en met deux, ça fait partie du jeu et tu l'acceptes. Mais là, il n'était pas au diapason de ses coéquipiers, en plus sur le côté effort collectif, parce que moi, ce qui m'a marqué hier, ce n'est pas quelque chose de tactique, même si on a vu que Habib Bey, il avait fait évoluer un petit peu avec son milieu à 3 et 3 mecs un peu travailleurs pour aller mettre de l'intensité. Mais c'est surtout la manière et le comportement des Marseillais qui a été très vertical. Ils ont été très, très verticaux, pardon. Ils ont été très verticaux à la récupération du ballon, contrairement à De Zerbi, où dès la récupération, c'était plus on calme, on essaye de poser le jeu, etc. Là, ça allait très vite. On l'a vu avec Traoré qui a pris l'autoroute derrière Maitland Niles 3 ou 4 fois en première mi-temps, même si ça n'a rien donné derrière, mais il le mettait en danger à chaque fois. Et donc, mentalement, c'était hyper positif pour l'équipe. Et surtout, dans la débauche d'énergie, parce que comme on en discutait hier après le match, il y a une stat qui m'a choqué moi au départ de De Zerbi, c'est que sur les courses à haute intensité, sur les 18 équipes de Ligue 1, l'OM était la 15e équipe de Ligue 1. Donc en fait c'était une équipe de flemmards. En fait il y avait une équipe de flemmards qui jouait le ballon au pied avec un peu de qualité, etc. Ouais. Et parfois ça suffit pas, parce que contre des équipes mortes de faim, ça suffit pas, et c'est aussi pour ça que tu te faisais souvent piéger. Et là, moi hier, ce que j'ai aimé, c'est déjà la réaction mentale, parce que dans la période de l'OM, prendre un but à la 2e minute sur une passe qui est involontaire, Tolisso, t'as tout pour que ce soit un cauchemar. T'as tout pour perdre 3-0, saison terminée, parce qu'hier tu perds, c'est terminé. T'as 8 points de Lyon, saison finie, on remballe, c'est la crise et les supporters quittent le stade. Là, on n'en est pas là, les mecs ont réussi à se relever quand même. Et surtout, ils ont mis une grosse intensité. Il y a des déchets techniques, il y a tout ce qu'on veut. Mais pour moi, si l'Olympique de Marseille, dans cette Ligue 1, avec les adversaires qui te restent à jouer, parce que t'as joué quasiment tous les gros en deuxième partie de saison, il te restera Lille et Monaco. Mais sinon, t'as joué Lens, t'as joué Paris, t'as joué Lyon. Donc, il va te rester beaucoup de petits moyens. Si contre ces petits moyens-là, tu mets la même intensité, la même dalle que t'as eu hier, tu vas pas en perdre beaucoup des matchs, parce que individuellement t'es au-dessus de ces mecs-là. Donc si individuellement t'es au-dessus, si tu mets les ingrédients dans l'envie, dans la détermination, dans les courses, dans le pressing, tu vas automatiquement avoir des bons résultats et tu perdras pas 5 matchs d'ici la fin de saison.
Oui, et puis ils perdaient beaucoup de matchs en fin de match justement, et là le mental leur a permis d'aller gagner ce match. Donc là effectivement il y a un petit changement, une petite évolution.
Il y a un switch, parce qu'en 10 minutes entre la 80e, Lyon est à 8 points, c'est quasiment terminé, et 10 minutes plus tard t'es à 2 points de Lyon. Donc là ça change tout, même niveau lyonnais. On a vu la réaction de Fonseca à la fin, on a vu Niakate aussi. Niakate très intelligent d'ailleurs, mais il en avait aussi un peu gros sur la patate. Il disait on est passé à côté de quelque chose, on a relancé le suspense. Et Lyon qui a la Ligue Europa, Lille qui a encore la Ligue Europa aussi.
Donc, la Coupe de France, Lyon aussi.
La Coupe de France, même si je pense que ça va se terminer jeudi pour Lyon. Contre Lens. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à jouer. Ça va être une fin de saison assez excitante pour ces quatre équipes, avec Rennes que j'ajoute, avec Francaise qui fait vraiment du bon boulot depuis qu'il est arrivé.
Merci Maxence. On a dit beaucoup de choses.
Oui, oui.
L'essentiel a été dit.
Oui.
Donc pour une deuxième, en tout cas pour la première à domicile de Habib Bey, c'est une réussite.
Oui, c'est clairement une réussite. Même dans le scénario, moi je trouve que voilà.
Il peut pas rêver mieux.
Il peut pas rêver mieux.
Après,
parce qu'il fait des coachings payants. Oui. En faisant rentrer Pachao à la mi-temps. Ouais.
En faisant passer aussi Traoré en 10, après en faisant rentrer Nouaneri. Oui, il a vu que son équipe elle était menée, il n'est pas resté sur les acquis de la première mi-temps, il a changé, il est allé pour aller chercher le résultat. Il n'est pas resté à attendre, parce que souvent avec De Zerbi c'est du poste pour poste. Par exemple, tu pouvais être mené, il se disait bon je remets les mêmes hommes, on repart pareil, on fait tourner tranquillement le temps, mais il a cru que c'était Barcelone de l'époque où il y avait quelqu'un qui allait faire la différence au bout d'un moment. Non, nous c'était redondant, ça tourne, mais il n'y a personne qui prend l'initiative. parfois Greenwood, mais quand tu tombes sur des blocs fermés, ça passe pas. Ouais. Et là, hier, comme il a dit Maxence, ils ont mis beaucoup d'intensité, il a mis un milieu travailleur, et là, on a vu tout de suite la différence.
En tout cas, les changements d'entraîneur là, qui se sont faits là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bay, Aize, ouais. Montagné à Saint-Etienne, Kongoré qui a bien commencé.
Sa première.
Ouais, donc pour l'instant... J'espère que ça va durer.
Et moi, je rajouterais juste un truc. Pour moi, c'est très important quand tu arrives dans un club, et quel que soit ce club-là, c'est de coller à l'identité de ce club-là. Oui. Et De Zerbi, qu'on le veuille ou non, individuellement, pourquoi pas, mais son jeu ne collait pas à l'identité de l'Olympique de Marseille. L'identité de l'Olympique de Marseille, c'est pas le Barça, c'est pas l'Ajax, c'est pas du redoublement de passe, du tiki-taka, de on prend notre temps. Le slogan de l'OM, c'est droit au but. L'identité de l'Olympique de Marseille, c'est du jeu vertical, vers l'avant. Toutes les plus belles équipes de l'OM, ça a été comme ça. Ouais. Même plus récemment, hein, quand on prend la saison que les supporters ont le plus aimé dans les 5-6 dernières, c'est la saison de Tudor. Saison de Tudor, tu gagnes rien. Tu fais pas des performances majuscules dans toutes les compétitions. Mais par contre, c'est du jeu vertical, donc ça marque des buts, donc il se passe des choses, et c'est ce que Bay a mis en place hier, parce qu'à la 80e, t'as pas fait des séquences de possession de dingue, c'était on met vers l'avant, on fait des différences, tout le monde court, tout le monde va dans la surface, et c'est comme ça que ça donne le troisième but. Donc moi je pense que c'est quelque chose de bien, si au moins Bay il a ce côté là. Après, sur les changements, je mettrai un petit bémol, c'est que la sortie de Timber, elle est obligatoire parce qu'il se démêle l'épaule, donc je sais pas s'il aurait fait ce changement là si Timber avait été à 100%, mais en tout cas c'est à son crédit de pas avoir rentré un autre milieu terrain comme Vermeeren ou comme Nadir, et d'avoir choisi Pechao.
Merci Maxence. En tout cas, ce qui relance complètement entre Lyon et Marseille, hein, et ce qui relance aussi, attention, hein, parce que Lille se sont rapprochés aussi. Imposés dans le Money Time face à Nantes 1-0. Hein, eux qui sont plus qu'à 3 petits points de Marseille, hein, ça ne change pas.
Monaco qui revient aussi dans
un
la
peu
course,
plus loin, je crois. Mais
à 2 matchs, à 6 points.
Après, Lille, je ne sais pas s'ils vont réussir à tenir ce rythme, parce que. Ils font des victoires vraiment tirées par les cheveux, mais c'est surtout Rennes, ça peut être une équipe qui peut arracher la quatrième place ou la troisième place, parce qu'ils ont un calendrier assez favorable.
Carrément, quatrième ou troisième place.
Ah bah oui,
ils sont pas très loin. Hein.
Mais au détriment de qui? De Marseille alors?
Marseille ou Lyon, tu sais pas.
Moi je vois Lyon craquer, moi.
Ils sont pas très loin. Hein. Franchement, Rennes, vu le calendrier qu'ils ont, ils sont capables de faire un enchaînement de victoires.
Mais tu regardes,
c'est énorme, 10 victoires.
Le banc de Lyon hier,
30 points.
Tu regardes banc de Lyon hier, le banc de Lyon, il est très très faible. Et quand ils ont encore plein de matchs d'Europa League qui vont arriver.
Il y a pas mal de blessés.
Mais
il y en a qui vont revenir.
Dans combien de temps?
Malik Fofana, il est censé revenir.
Ah, Malik Fofana, ça fait 2 mois qu'on me dit qu'il est censé revenir.
Et il va revenir
il
à quel
pas
niveau
fait un entraînement. Donc,
voilà, c'est ça aussi, parce que c'est bien beau de revenir, mais le rythme.
Soul, faut l'avoir. Morera. Et quand les mecs, tu vas aller jouer jeudi soir à Celta Vigo, et que dimanche 15h, tu vas devoir aller à Brest, ou tu vas devoir aller à Rennes, ça va pas être évident. Hein.
Je pense qu'il y aura un choix à faire, mais moi, en tout cas, de ce que je vois de cette équipe lyonnaise, est beaucoup plus solide, en tout cas, que leur concurrent direct de leur adversaire du soir.
Oui, après, parce qu'ils ont des bases, mais est-ce que sur la longueur, la fatigue va pas les tuer? Ça, je ne sais pas.
Oui, il peut y avoir des coups de moins bien.
Oui, c'est vrai, ça.
Comme a eu Lille, comme a eu Monaco à un moment, comme a eu Rennes aussi, et puis bon, voilà.
Moi, je vois Monaco,
c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est joué.
Parce que Monaco, ils vont terminer fort.
Moi, je pense que Monaco, dans le top 4, là, juste. Top 4, top 6 même au-dessus.
Non, moi je les vois pas
à
top
part
4.
Le PSG, et encore, même le PSG, on a vu, ils peuvent leur poser des problèmes.
Ah oui.
En dehors de eux, moi, pour moi, toutes les autres équipes, ils sont.
Moi, Monaco, je les vois pas
ils
top
4. Hein.
Monaco, je les vois,
cas,
je les vois
pas top 4. On parlait d'irrégularité, Monaco, c'est quand même bien irrégulier aussi. Hein, donc,
bien évidemment,
je mettrais pas un centime ni un ongle sur une victoire de Monaco contre n'importe qui.
Ah, moi, en tout cas, contre le top 6, moi je les mets favoris eux tous. Les seuls contre qui j'ai. Un petit doute, toujours un petit doute, ça serait Lyon, c'est tout.
Et je crois qu'il y a un Monaco-PSG là, bientôt, ou PSG-Monaco.
Oui,
Monaco.
Ce week-end.
Déjà là, ce week-end, ils ne prennent pas les points, ça peut déjà recreuser un écart.
Ça m'étonnerait pas que le PSG perde ou font même match nul. Hein.
Oui, match nul possible.
En vue de la performance, on reviendra, mais en vue de la performance PSG-Monaco, sur la double confrontation, on reviendra.
N'importe qui pourrait doubler l'OM, il va te dire que c'est fait et que l'équipe est meilleure que l'OM. Si tu lui dis, qu'est-ce que tu en penses de Lorient?
Non, mais là ça n'a rien à voir avec
Monaco. Tu les vois top 4?
Mais j'ai pas dit que je les vois top 4, j'ai dit que Monaco je les vois battre sur les prochains matchs là,
les confrontations directes.
Sur les confrontations directes, je vois les battre.
Je pensais que tu parlais du classement.
Non, le classement, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont finir. Ils sont à, ils restent 10 matchs, ils sont à 6 points de l'OM, c'est encore jouable. Hein. Sur 30 points, 6 points, c'est encore jouable. Maintenant, je ne dis pas qu'ils vont terminer devant l'OM ou qu'ils vont terminer devant... Non,
non, la moi, seule je équipe top
que
4,
je pense
je
qu'ils
top
vont
4.
Terminer devant l'OM, bon, sans compter le Paris Saint-Germain et les Lensois, bien évidemment, ça en fait beaucoup, mais voilà.
Moi, ça peut être Rennes. Rennes, moi, c'est...
Mais moi, ça me choque.
Lille,
moi,
je ne les vois pas, je les vois pas durer.
Moi, j'ai plus peur de Rennes que de Lyon. Je pense que là, entre Rennes et Lyon, je pense que Rennes finira devant Lyon.
Ah oui.
Parce que moi, quand,
moi,
je, vois cal... moi, quand je vois le calendrier de Rennes, ils affrontent beaucoup de petites équipes.
Et Lyon a un calendrier très difficile. Ils doivent jouer encore le PSG au Parc, ils doivent jouer encore Lens, ils doivent jouer encore. Ils viennent de jouer Marseille et Strasbourg. On a vu ce que ça a donné, deux défaites. Ils doivent jouer encore Monaco.
Non, mais attendez, non, mais il faut rigoler quand vous me dites que Rennes, ils ont un... Rennes, ils doivent aller à Nice, prochain match.
Nice est faible, c'est zéro, Nice.
Ouais, mais tu peux perdre des points quand
tu
même.
Tu peux perdre des
points. Ouais,
mais
tu peux perdre des points contre tout le monde.
Oui, oui, tu peux perdre des points contre tout le monde. Nice, ça se relance maintenant. Moi, je dis pas que Nice est super fort.
Mais tu préfères jouer Nice au Parc.
Non, mais attendez, attendez, je vous dis juste les trucs. Ok, parce que dans les deux cas, tu vas jouer à domicile contre Lille.
C'est
un
direct. Ça, c'est un beau match. Ça,
bon, tu joues à domicile contre Metz, ok. Tu vas à Brest, c'est pas facile d'aller à Brest, en sachant que
derrière Brest,
même de mettre un but, c'est compliqué. Parce qu'il reste sur 3 ou 4 clean sheets, je crois.
C'est les matchs que tu peux perdre.
À domicile Brest. À domicile contre Angers, ça devrait le faire. Tu vas à Strasbourg.
Avec attention.
Tu joues le derby breton contre Nantes. Un derby, c'est toujours un derby, même si tu joues à domicile, en sachant que Nantes devront essayer de gagner des points.
Ouais,
si c'est dans 5
mais
journées.
Là, tu vas à Lyon. Dans ce cas-là, tout le monde est dangereux.
Non, mais tu vas à Lyon. Excusez-moi, mais attendez, tu vas à Lyon
mais
quand
Lyon,
même.
Mais Lyon contre les gros, attention. Parce que Lyon,
mais Rennes, moi, je
on parle de leur
pas
super
gros, en fait, déjà.
Peut-être.
Donc déjà, Rennes allait à Lyon.
Mais Strasbourg, c'était pas un gros à ce moment-là aussi, tu vois. Et Strasbourg, ils ont mis un tarif à Lyon. Il n'y a pas eu match.
Rennes allait à Lyon.
Eh moi le Rennes de Francaise là depuis deux matchs, je me dis attention, avec un seul match par semaine,
Rennes
avec...
à Lyon vous. Moi je dis juste qu'en tout cas c'est des matchs où ils peuvent perdre des points.
Mais bien
quand
sûr,
même.
Mais ça c'est pas fou. Mais Lyon
en
aussi
sachant
peut perdre des points.
Oui, mais en sachant que si Lyon se font éliminer comme tu le prétends juste avant, ça joue le 3 mai.
Je te dis
ça joue le 3 mai.
Je te dis
si Lyon ne joue aucune compétition.
Non.
Oui, mais si ne joue aucune
Coupe d'Europe.
Ah d'accord,
la Coupe d'Europe, je les vois avancer moi.
Ah d'accord, parce que s'ils ne perdent aucune 3 mai quand même, 3 mai il faut qu'ils soient qualifiés pour la finale, je pense à peu près, c'est ça sera
non,
ça,
mais
hein.
Même s'ils ont fait une demi ou un quart, ils auront déjà 4, 5, 6 matchs de plus dans les jambes.
Oui, c'est possible. Mais quand t'arrives le 3 mai et tu sais qu'il te reste 3 matchs et que c'est des trucs, c'est des finales que tu joues.
On verra.
Et ensuite,
il y a trop de confrontations directes.
Et le dernier match, Rennes va
à Marseille.
Bon, après ça, ok, je peux comprendre que c'est facile de gagner au Vélodrome, mais les autres, en tout
pas
cas.
Pas grand monde a réussi cette année.
Ça me paraît pas.
Attention.
Non,
hein.
non,
ouais, mais pas Paris, pas
non.
Lyon, pas Monaco.
Moi, en tout cas, je trouve que le calendrier de Rennes est avantageux.
Ah
mais tu parlais au Vélodrome.
Saint-Germain c'est bien rattrapé à domicile. Là ça c'était vraiment des contextes où le match a été modifié, retardé le lendemain. Il y a
en
eu
parlant
beaucoup de
matchs retardés, c'est sympa ce qui se passe en Ligue 1, non du côté
de
Nantes.
Ah, Nantes a accepté.
Oui,
Kita est très.
Kita lui descend en Ligue 2, ça lui pose pas de problème.
Ah
il
non,
se dit
non, c'est
l'important
ça.
C'est que Nasser il soit content. J'avais une petite chance peut-être de prendre des points entre deux matchs de Ligue des Champions. Faut surtout pas que ça arrive. Donc vas-y Nasser, tu veux qu'on joue quand? Ah, le 12 avril, parce qu'il n'y aura pas de match 15 jours avant, je pourrais t'envoyer Dembélé, Barcola. Ok, bah vas-y, on joue le 12 avril, ça finira 4-0. Mais c'est fou quand même de voir qu'on est le seul pays à faire ces conneries-là. Hein.
Oui,
c'est que ailleurs, Chelsea, ils vont
les
jouer Paris, et ils jouent City le week-end. Hein.
Matchs, oui,
Chelsea, City,
d'accord.
Et autant faire ça avant une finale, je peux comprendre.
Oui, oui,
finale,
oui,
voire
oui.
demi-finale, allez, demi-finale de Coupe d'Europe, etc. Mais là, on est sur un huitième de finale.
Non, c'est vrai.
Donc si le PSG va au bout, ils vont faire sauter combien de matchs? 4, 5 et encore.
Mais ça, c'est la mentalité.
Il avait fait une fois l'année dernière, je crois.
Oui, parce que avant la finale ou avant la demi, mais ça, je peux comprendre à la limite. Tu n'as pas envie de blesser tes mecs et tout. Mais là, avant un huitième, c'est ridicule.
Ça,
c'est
vrai,
vraiment ridicule.
Le pays à le faire. Hein. Les
mais parce
grandes
que
nations,
on est tellement mauvais en Europe
match.
Que dès
exactement.
Que on mise tout sur le PSG.
Il nous faut. Bah oui, ouais, parce que c'est la seule qui ose le ton.
Mais n'importe quoi. Ouais. Hey, Lyon, Lille, ils ont demandé ils sont en 8e aussi de leur Coupe d'Europe. Strasbourg, ils sont en 8e de leur Coupe d'Europe. Leur match, ils n'ont pas sauté.
Bien sûr, mais c'est pas les mêmes coefficients.
Mais arrêtez.
C'est pas les mêmes coefficients et c'est pas les mêmes stats.
C'est que Nasser, il tient la LFP dans la main, les gars.
Attendez, excusez-moi.
Mais si.
Il y a de ça.
Il y a que de ça.
Il y a pas de souci, mais attendez, les gars. Ceux qui rapportent le plus en ce moment à la Ligue 1.
Mais qu'est-ce que Kita, il en a à foutre?
C'est le Paris Saint-Germain.
Et qu'est-ce que Kita, il en a à foutre de ça? Kita, il devrait être intéressé par son club et ses champs. Là, il joue la vie de certains salariés. Il joue des postes, en fait. Et
donc, le mec, il lui laissera la recette. Comme bah,
exactement. Il a, voilà, et il lui achètera, et lui achètera son défenseur central à 25 millions au lieu de 10. Et tout le monde est content.
Mais c'est bien,
c'est bien. C'est super.
On dit pas que c'est bien. Mais
si, c'est bien.
C'est les arrangements qui sont.
Ouais, puis surtout, Kita, il savait peut-être que s'il y avait conflit, de toute façon, il aurait pas le dernier mot. Peut-être qu'il a peut-être pas insisté.
Ouais, mais après, enfin. Non, un peu de dignité quand même pour tout le monde, quoi. Là c'est assez ridicule.
Moi je suis pas pour qu'on déplace les matchs,
hein. Et c'est fréquent pour le Paris
Saint-Germain. Absolument pas. Moi, pour moi, ils doivent enchaîner.
Mais surtout pas à ce moment-là.
Non, pour moi, ils doivent enchaîner.
Mais je
dis juste que de l'autre côté, ceux qui ramènent de la visibilité sur la Ligue 1 et sur les coefficients en place européenne, c'est le Paris Saint-Germain.
Bah alors on se couche. Alors tu te couches,
c'est des équipes comme Marseille.
Mais alors tu te couches,
les débats qui se prennent en Europe.
Mais arrête un peu tes tacles ridicules. Mais Marseille en 10 ans, c'est 3 demi-finales européennes. Qu'est-ce que tu baves? Il y a aucun club français.
Attends, il y a aucun quoi?
Il y a aucun club français hors PSG qui fait 3 demi-finales européennes.
C'est bien de dire hors.
Je te le dis.
C'est bien de dire hors.
Je te le dis parce que
c'est bien de préciser hors.
3 demi-finales européennes
sur les 10 dernières années.
Oui.
Lyon, ils en ont fait combien?
Des demi-finales européennes?
Monaco, oui, ils en ont fait combien?
Bah pas beaucoup, Lyon. J'en vois pas.
Attends, t'en vois pas contre le Bayern?
Ah, c'était pas dans les 10 dernières années?
Ah non, c'était plus vieux que ça.
On est en 2026, elle a dit. On est en 2026, elle a dit. Le Bayern, c'était en 2012
ou quoi? C'était en 2020?
Ouais, c'était pendant la
Ligue. Ah, la fameuse Ligue.
Ça fait une à la
fois.
Oui,
la Ligue. Et 2017, c'est à Monaco, 2017, non?
Oui,
c'est à Monaco.
Ça fait une. Mais je te demande qui en a fait 3.
Oui, mais c'est la Ligue des Champions, toi. Vous, c'est la Ligue Europa. Non, mais sérieusement.
Mais on parle pas de la même chose.
Je pense que juste une demi-finale de Ligue des Champions apporte beaucoup plus en termes de coefficient que une demi-finale de Ligue Europa. C'est qui la dernière personne qui a gagné la Ligue Europa? Le tenant entier de la Ligue Europa, c'est qui?
C'est pas Atalanta?
C'est Tottenham.
Tottenham.
Vous voyez, jusqu'à on sait même pas trop, parce que il y a 2 ans, 3 ans, on dit c'est Francfort qui l'a gagné ou c'est.
Mais ça, c'est
la Fiorentina. Mais
les autres pays, ils la jouent sérieusement.
Oui, mais c'est.
Mais les autres pays, ils la gagnent. Et les autres pays, Séville, c'est pas un bon club. Séville, c'est pas un bon club.
C'est qui? Mais c'est les 5e, 6e des autres championnats. Aujourd'hui, Séville joue le maintien en Liga. Après, c'est les 5e, 6e d'autres championnats. Nous, c'est nos 2e qui se retrouvent en quart de finale.
Mais nous, c'est Lyon.
Bah, Marseille, je sais pas, en quart de finale ou demi-finale de Ligue Europa.
Mais ça pouvait pas être le 2e.
Mais les gars.
Mais non, parce que.
Et dernièrement, il y a. Bah, attendez, ça fait déjà un. Lyon, ils ont fait demi-finale d'Europa League, là, non?
Non.
Contre United, c'était
quoi? C'était un quart.
Bah non, mais si ça compte pas quand ça va pas dans ton sens, ça compte pas alors. Mais soit on prend les faits, soit on prend pas les faits. Mais parce que tacler à chaque fois sur dire l'OM machin.
J'explique juste que la Ligue, entre la Ligue Europa et la Ligue des Champions, il y a un step. Une, je préfère en 10 dernières années, toi-même si t'es propriétaire d'un club, ou toi-même. En tant que supporter de Marseille, demain on dit une demi-finale de Champions League ou 3 demi-finales de Ligue Europa. Je pense que ton choix il est vite fait.
Bien sûr, mais si tu me dis comme Lyon, une demi-finale de Champions League et plus de Ligue des Champions pendant 7 ans, je me questionne.
Ça c'est d'autres faits. C'est comme terminer combien tiers du classement, etc. C'est d'autres choses. On parle juste d'Europe. En termes d'Europe, une demi-finale de Ligue des Champions, c'est beaucoup mieux que 3 demi-finales de Ligue Europa. Et on le retient beaucoup plus aussi.
Bien sûr.
Voilà,
bien
moi,
sûr.
Ça m'a plus marqué les buts contre. Comment il s'appelle là
Ah, ça t'a vachement marqué, tu connais pas son nom.
Kadewere contre City, Manchester City.
Ah oui, t'as eu du mal.
Mais
t'as eu du mal
à. Parce que le but, je l'ai.
Je sais pas, ça t'a marqué. Ça t'a marqué.
Oui, ça m'a marqué. Le but, je l'ai. Mais ça fait près de 10 ans. Mais moi, le but, je l'ai.
Ça fait 10 ans, ça fait 5.
Ah, ça fait.
C'était 2020,
six,
Covid.
Ça fait 6. Ouais. Mais quand petit, même. Hein. Mais contre Manchester City, etc. Moi, ça, voilà, ce sont des matchs qui m'ont marqué. Vraiment. Ouais. Plus que les demi-finales. Là, demi-finale de l'OL, c'est quoi? De l'OM, c'est 3-0 l'Atalanta.
Et après, c'est là.
Et t'as la finale d'Europa League aussi?
Oui.
Que tu fais d'abord contre l'Atletico.
Contre Griezmann en 2018.
Ouais. Ça me paraît très loin. Ouais.
Tu me dis les 10 dernières années. Là, il suffit d'en faire plus le matin.
Après, là où je te rejoins, il a dit, c'est que c'est vrai que Lyon et Monaco, ils procurent plus d'émotions parce qu'ils ont réussi à faire des exploits, en fait. Tu vois, par exemple, comme tu as dit, taper Manchester City, ils avaient tapé aussi, ils avaient sorti la Juventus de Turin, si je ne dis pas de bêtises, juste le tour précédent. Monaco, on s'en souvient de leur parcours en 2017.
Ouais.
Et en fait, je trouve que justement, c'est ce qui manque à Marseille et pendant longtemps aussi, à un moment donné aussi à Paris, c'est que tu vois, c'est ces moments d'exploit qui marquent les gens. Donc je pense que c'est plutôt peut-être sur ça, je te rejoins.
Oui, mais de toute façon, c'est pas le débat. En fait, le débat, c'est juste de dire que le fait de protéger le PSG à ce point-là, ça sert personne. Et c'est ridicule parce que ta Ligue 1 qui est déjà pas respectée dans le monde, elle est encore plus descendue. T'es déjà une des seules ligues à être à 18 parce que les autres sont à 20. Donc les autres, ils s'enchaînent des matchs. T'es une seule ligue qui a viré la Coupe de la Ligue aussi. Donc t'as plus de coupe. Donc en fait, t'as une coupe, un championnat à 18, et malgré ça, on doit encore faire décaler des matchs qui vont mettre en danger, qui vont déjà nuire à l'équité de la Ligue 1, que ce soit en haut ou en bas, parce que moi, je suis désolé, je suis adversaire de Nantes, je suis dégoûté que Nantes garde une cartouche avec un match en retard à jouer, alors que moi, je suis devant et je vais avoir mes Paris. Points ou pas. Oui, non, mais on sait jamais.
Ouais.
Oui, mais...
Après, il peut mettre l'équipe Z.
Et si à ce moment-là... Non, mais et ça laisse la porte ouverte à tout. Si mais Nantes, si Nantes fait l'exploit et gagne 2-1, t'es Le Havre, tu dis quoi? T'es Angers, tu dis quoi?
Je vois,
t'es dégoûté de la vie.
Non, je vois ce que tu veux dire. Là où je te rejoins, effectivement, c'est tout le monde doit être traité de la même manière, qu'on soit riche ou pauvre, faible ou puissant. Mais là où moi je rejoins Eladji personnellement, je dis que oui, il a factuellement raison que le PSG c'est l'étendard du football français en Europe.
Ouais, ça, bien sûr, mais donc du coup, soit tu le fais pour tout le monde, soit tu le fais pour personne. Ouais, soit tu dis à Lyon, parce que Lyon ils aimeraient bien aussi avoir leur jour de repos.
Ouais, oui, mais est-ce qu'ils l'ont demandé? Je pense même pas
qu'ils l'ont pas demandé.
Non, mais c'est vrai, je pense même pas qu'ils le demandent, tu vois, Lyon. Je pense même pas qu'ils le demandent. Moi je dis pas que c'est une bonne chose.
Pour un 8e, c'est ridicule.
Pas que c'est une bonne chose,
je suis d'accord.
Oui, surtout pour un 8e. Non, moi je dis pas que c'est une bonne chose.
Tapie l'avait fait à Marseille.
L'année dernière, pour une finale, j'avais rien dit. Une finale, c'est
normal.
Tu prépares ton match, c'est historique, machin.
Se blesser, ça, c'est normal.
Mais la huitième de finale.
Ouais, je suis d'accord. Mais non, mais on est le seul pays à le faire. C'est vrai.
Et
c'est
puis
vrai.
Imaginons, ça ne sera pas le cas, hein, parce que Lens va prendre un petit tarif, je pense. Mais imaginons que Lens. Non, imaginons que Lens finisse à 2 points. Imaginons que Lens finisse à 2 points de Paris. Et que au moment du retour PSG-Nantes, le PSG soit à -1, par exemple, et qu'en gagnant, il passe à +2. Mais c'est un scandale. Parce que t'es Lens, tu dis, mais attends, ils auraient pu perdre des points entre deux matchs de Ligue des Champions. Et au lieu de ça, on leur met le match sur un plateau, mi-mai, quand ils ont récupéré leurs blessés, que tout va bien.
Oui, c'est... Bien sûr.
Après, ça fausse un championnat qui n'existe pas. Mais. Ailleurs, je vois pas ça. Ailleurs, non, les mecs, ils vont jouer. Parce que même pour la Ligue des Champions, ça dessert un petit peu les clubs anglais. Mais ça, c'est bien fait pour eux. Déjà, ils sont 100 000 dans la Ligue des Champions. Bah, donc, on va rien leur dire. Mais quand le week-end, il va y avoir Chelsea City, les mecs, ils vont s'envoyer de fou. Mais 3 jours après, ils retournent en Ligue des Champions. C'est ça aussi. Après, le football de haut niveau et le mois de.
Je vois ce que tu veux dire. Mais après, pour moi, quand tu regardes la première ligue, les droits de télé qu'ils ont, la puissance financière qu'ils ont.
C'est mieux que la Ligue des Champions.
Mais regarde,
même s'ils doivent sacrifier la Ligue des Champions, ils sacrifient la Ligue des Champions.
Bien sûr.
Mais regarde, le truc, ce que je comprends pas, c'est que Lucien Rica, à la base, il a dit qu'il voulait enchaîner des matchs. Et pourquoi là, il décale le match? Alors que lui, de base, il a dit, c'est très bien qu'on ait...
Mais parce qu'il se rend bien compte que physiquement, il n'a pas l'équipe qu'il aurait voulu avoir.
Je sais pas.
Après, tu vois, entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, et à partir du moment où il y a ton président qui vient te voir et te dit, le match, là, on peut le déplacer, on va le déplacer, c'est mieux. Je pense que tu vas pas broncher, tu vas pas dire, non, mais moi, je vais enchaîner les matchs parce que j'ai dit que je vais enchaîner
les matchs.
Lui,
c'est ce qu'il avait dit pour avoir un peu plus de compétition.
Tu comprends. Et je pense que même en envoyant l'équipe B entre deux matchs, je pense pas que le PSG ont perdu temps.
Mais bien sûr, c'est ça aussi le drame. C'est que, t'envoies Mbaye, Kanguini, ils auraient gagné contre Nantes en ce moment. Même les 19, ils gagnent contre Nantes.
On va recentrer le débat. Hein. On va rappeler le Paris Saint-Germain, premier avec 57 points. Lens, deuxième avec 53 points. Les Lyonnais avec 45 points, troisième. Marseille avec 43 points, quatrième. Lyon, cinquième avec 40 points, égalité avec Rennes, 40. Et il y a Monaco. Et il y a Monaco, 7e avec 37 points. Voilà pour le bas de tableau. Auxerre qui sont barragistes à 6 points de Nice et à 1 point devant Nantes qui sont inclinés encore une fois. Metz qui ont 13 points et qui sont 18e. Voilà pour la Ligue 1. On va faire une petite pause avant de revenir avec la Ligue des Champions, mesdames et messieurs.
Retrouvez Au bout du foot avec Eladji Makalou. L'émission, on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM. Il est 21h22, si vous venez de nous rejoindre, nous avons fait le débrief sur la Ligue 1. Nous allons enchaîner avec la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, tenu en échec, 2-2 face à l'AS Monaco, réduit à 10 encore une fois, hein. Mais ce qui permet aux Parisiens de se qualifier assez durement quand même, hein. C'est assez pas laborieux.
Petite porte, hein. Par la petite porte.
Par la petite porte.
Même sur l'ensemble des deux matchs. Hein.
Oui, sur l'ensemble des deux matchs. En sachant que Monaco était à 10. Donc si Monaco n'avait pas été à 10 sur les deux, bon, avec les Sions, on fait des occasions. Avec des occasions, même à 10, en dernière, voilà, fallait. Voilà, fallait la dernière occasion.
Ça me rappelle les pires heures à l'époque de la remontada. Où voilà, on tremblait sur notre chaise. Et voilà, c'est des mauvais souvenirs.
Ces souvenirs ont été effacés depuis quand même.
Oui, ils ont été effacés quand même, mais c'est des fois, il y a des fantômes du passé qui ont
les petits traumatismes qui sont revenus.
Et non, du coup, oui, franchement, ouais, c'était très très laborieux, vraiment très très laborieux. Et franchement, je sais pas ce que, bon, après, comme tu as dit, avec les si on refait le monde, mais je sais pas qu'est-ce qui se serait passé si Koulibaly serait pas pris le deuxième jaune. Donc après, je sais pas, est-ce que c'est les joueurs qui ont plus envie, ou est-ce que c'est une fatigue physique, ou est-ce que c'est que
il y a peut-être un peu des deux.
Ouais, non,
inconsciemment, c'est dans l'inconscient de toute façon.
Des fois, je me dis, est-ce que les gens ne commencent pas à comprendre le système Enrique et les faiblesses de Paris? Donc, aussi, c'est
En fait, je pense que le système Enrique aussi, tu dois avoir beaucoup d'énergie. Et cette énergie, je pense qu'ils ne l'ont plus.
Ouais, ils n'ont
plus la même dalle. De
mais
toute façon,
déjà,
ça
parce qu'il y en a
ça
trop qui reviennent de blessures.
Oui,
donc, le temps de reprendre sa condition à 100%, surtout l'aspect physique, dès que tu es à 71, l'autre il a 80, l'autre il a 88, en fait, personne n'est à 100%, ça fait que le collectif, quand il y en a toujours un qui est moins bien, ça enraye toute la machine. Et c'est ça, on le voit. On voit dès que maintenant ils se font presser, dès que tu vois que les latéraux, ils n'arrivent plus à faire les mêmes efforts, que ce soit aller ou retour, on sent directement que il n'y a pas le même impact, parce qu'il n'y a pas le même apport offensif. Le milieu de terrain, quand il n'y a pas Fabien Ruiz, tu sens que lui, il n'est pas là, il y a une grosse épine. Vitinha, tu sens qu'il est rincé. Il joue tous les matchs. T'as l'impression qu'il est jamais reposé. Et si t'enlèves Vitinha, c'est plus du tout le même Paris Saint-Germain. Donc moi je trouve que c'est compliqué, parce que Monaco, ils ont très bien pris à la gorge le Paris Saint-Germain la première mi-temps. Après, c'est juste qu'ils ont manqué d'efficacité, et ça c'est le gros défaut. Mais le truc que Paris, je pense, ils se disent aussi, là on affronte une équipe de Ligue 1, ça va passer, tu vois, parce que c'est des équipes qu'ils ont l'habitude de battre. Donc malgré que ça peut aller mal, en fait, on arrivera toujours à retourner la situation. Et dès le rouge, on l'a vu qu'il y a les buts qui sont arrivés derrière. Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti les joueurs importants. Il a fait rentrer des gens du banc. Et là, Monaco recommence à exister. Mais si jamais Luis Enrique n'aurait pas fait ces changements, ils auraient pu un peu appuyer. Mais là, il a pris de haut un peu Monaco, et Monaco, c'est de là qu'ils ont commencé à faire peur au Paris Saint-Germain.
Moi, je pense qu'on a un peu biaisé aussi sur le PSG, c'est qu'on prend la valeur qu'on a vue sur les 3-4 derniers mois de la saison dernière pour tous ces joueurs-là comme la valeur de base, la valeur étalon, en disant Vitinha, c'est ce niveau-là, Dembélé, c'est ce niveau-là, Doué, c'est ce niveau-là, Barcola, c'est ce niveau-là, minimum, en gros. Alors qu'en fait, ça, c'était le niveau pic qu'ils ont eu dans leur carrière. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est facile à reproduire tous les ans. Sinon, ça devient des joueurs top class, comme il y a eu dans le Grand Real, comme il y a eu dans les équipes qui répétaient les performances. Ouais. Mais la plupart des vainqueurs de Ligue des Champions qu'on a vu ces dernières années, la saison d'après, il y avait un petit coup de moins bien, et c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Donc je pense que c'est une erreur de se dire Dembélé, là, il nous a donné ça l'année dernière, cette année c'est soit ça, soit mieux. Vitinha, pareil, soit ça, soit mieux. Barcola, soit ça, soit mieux. La vérité, c'est que c'est soit ça qui est leur pic de pic, soit un petit peu moins bien. Et je pense que pour la plupart, ça va être ça en un petit peu moins bien, et ça reste des très bons joueurs, ça reste très bien, mais ça suffira peut-être pas.
Ça suffira peut-être pas, en tout cas, c'est ce qu'on se dit. Hein. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui se sont imposés et qui auront défié Chelsea. Messieurs, très rapidement, est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain vont se qualifier face à Chelsea?
Je pense qu'ils vont passer.
Oui, quand même.
Je pense qu'ils vont passer, mais attention,
s'il n'y a pas de gardien en face.
Ah, donc vous êtes 4 unanimes là-dessus.
Oui. Ouais, après, je te dis pas 100%, mais je te dis 70-30 Paris.
Oui. Okay. Oui.
Non, après, moi, franchement.
Moi, je suis plus 70-30, mais dans l'autre sens. Ouais.
Ah bon?
Chelsea.
Oui. Oui, Chelsea, je pense que Chelsea vont sortir le Paris Saint-Germain. Ah oui,
ça me choquerait pas.
Moi, ce qui me choquerait là, ça serait que le Paris Saint-Germain batte Chelsea. C'est ça qui me choquerait.
Non, après Chelsea,
franchement, Chelsea,
après la première ligue, ça va.
Bah ouais.
Sixième du championnat anglais.
Première de première ligue. Sixième de première ligue, ils auront quand même mis 3-0 en finale
oui,
de
oui,
mais
oui,
ça, ça, c'est le Paris Saint-Germain ont toujours du mal contre les équipes anglaises. Non, c'est vrai, même contre Newcastle, contre un Newcastle assez faible, ils n'ont pas réussi à gagner face à Newcastle.
Mais moi, pour être dans ton sens, en tout cas, le Chelsea-Liverpool, je ne les vois pas passer les deux.
Après, là, c'est des matchs à élimination directe.
Liverpool, ils ont
en quart.
C'est pas pareil.
En quart, ce serait
Liverpool joue
Galatasaray.
Galatasaray, attention, ils ont perdu déjà.
Moi, j'ai vu Galatasaray contre la Juve au retour. C'était catastrophique.
Mais la Juve aussi ont été transformés après.
Oui, oui.
Mais,
après, là, c'est des matchs à élimination directe. Tu peux pas comparer un match de poule et un match à élimination directe.
C'est un nouveau tournoi qui commence.
Moi, hier, quand je vois encore Robert Sanchez dans les buts de Chelsea, j'ai du mal à me dire qu'ils vont pouvoir faire quelque chose dans cette compétition. L'importance du gardien, elle est telle dans cette compétition-là que ce mec-là, moi, il me rassure pas et il fait même très peur.
Oui, non, mais après, dans le sens aussi, je pense pas qu'il est adapté, on en reviendra sur la Première Ligue, au football de Rosinor, qui est un peu comme De Zerbi, il aime bien qu'on soit faire un build-up, construire en partant de tout en bas, remonter, voilà, et en remontant petit à petit. Et Sanchez, il a pas un bon jeu au pied, et bon, après aussi, comme gardien, il est rarement décisif. Mais attention, Chelsea, c'est quand même une bonne équipe.
Ah oui.
C'est une bonne équipe.
Et puis ils vont te mettre une intensité de fou. Ouais, ah non, mais si t'as pas les moyens de répondre, tu vas être vraiment dans la galère.
Ouais. Non, ça sera pas facile, mais je pense que Paris va passer quand même.
Ouais. Après, voilà, je vois Paris passer, mais ça va être
très, très,
très
dur. Parce que si
tu fais
les deux premières mi-temps que t'as fait contre Monaco, non, t'es dehors.
Ah oui,
de toute façon, chaque match qu'ils vont jouer, ça sera comme l'année dernière. L'année dernière, en fait, on oublie souvent parce que la finale, ça a été un calvaire pour l'Inter. Mais sinon, chaque tour a été dur.
Bien sûr.
Mais parce que comme la finale a été tellement surdimensionnée, tout le monde oublie que les matchs d'avant, en fait, tout s'est joué à ça.
Le Aston Villa, c'est un
Aston
miracle.
Villa surtout,
Donc là, ça va être la même chose que l'année dernière. Ça va être chaque tour va être une guerre. Et après, on verra s'ils auront les épaules encore d'affronter les. En plus, vu que après s'ils passent après Chelsea, c'est
Liverpool ou Galatasaray.
Tu vois, donc ils se retapent encore les Anglais comme l'année dernière. En fait, c'est une bis repetita.
Et
donc,
en demi, ça peut être City aussi, selon
ou
le.
Bayern.
Non, si on voulait continuer dans les Anglais, ça peut être City, Real, Bayern, mais ça peut être trois Anglais.
Mais
en tout cas, ils sont de côté le plus difficile en tout cas de tout ça. Ouais. On a parlé du reste, hein. on va poursuivre, hein, messieurs, comme le temps file. Voilà, on va aller du côté d'Anfield, Liverpool qui vont affronter Galatasaray qui ont perdu 3-0 au bout du temps réglementaire, mais qui ont mis deux petits buts grâce à Osimhen notamment et tout simplement qui ont pu réduire l'écart 3-2
face à une équipe à 10.
Face à une équipe à 10 depuis
ils s'en sortent très bien
la mi-temps.
Très très bien.
En fait, je pense qu'ils ont pas su comment jouer le coup. Ils se sont retrouvés menés 1-0 à 11 contre 10. Ils ont pas su est-ce qu'on va en marquer un ou est-ce qu'on reste derrière et tout. Et ils se sont fait piéger parce qu'à 2-0 ils ont commencé à stresser. Et attention parce que Zegrova il a le ballon du 4-0. Zegrova, l'occasion qu'il rate, c'est un truc de fou. Si je suis supporter de la Juve, je dors pas de la nuit. Zegrova, c'est un truc de fou ce qu'il rate. Et derrière, tu te fais punir parce que la fatigue, les mecs, ils ont
prolongé.
C'était exceptionnel. Le match de Kefren Thuram, il est fou. Kefren Thuram, il fait un match.
Mais j'ai pas compris pourquoi il a sorti.
Ouais, je sais pas, il pleure quand il sort.
Parce que franchement, au milieu de terrain, j'ai l'impression
qu'il
est.
Il a eu l'occasion aussi.
Ouais, c'est ça.
Sa petite louche là, elle était belle.
Et il dit aussi, je devais la mettre au fond. Et il pleure. Sur la fin, quand il marque, il dit, ouais, j'aurais dû la mettre au fond, Il le répète plus.
Après, dans tous les cas, même s'il a raté, derrière, ils ont quand même réussi à marquer. Donc, c'est passé. Mais j'ai pas compris pourquoi il a sorti alors que son apport au milieu de terrain, j'ai l'impression qu'il était tout seul. Contre trois mecs, il arrivait à faire des percées à chaque fois. Et l'entrée de Zegrova et Boga ont amené un surplus à la Juventus. Mais Galatasaray, comme il a dit Maxence, ils ne savaient même pas s'ils devaient attaquer ou rester en bloc. Donc ils étaient entre deux quand ils faisaient des contre-attaques, ils n'y allaient pas à fond. Alors que la Juve, c'était le tout pour tout. C'était on laisse un mec derrière et on va tous, même. Ultra offensif. Ils ont eu une pléthorie d'occasions alors qu'ils étaient à 10. Et après, en prolongue, ils étaient rincés.
Ouais.
Parce que c'est quand même beaucoup plus simple de jouer des matchs comme
ils
ça.
Ils en ont eu quand même. Zegrova encore sur le côté.
Mais je trouve que Galatasaray, dès qu'ils sont passés à 2 devant, après, c'était compliqué.
Oui. C'était un match de transition de fou.
En fait, t'attendais le chaos. Soit en fait, la Juve, ils mettaient le chaos. Soit Galatasaray, mettait. Voilà.
Mais après,
ça n'allait pas mettre au but.
Par contre, l'ailier gauche turc, je ne sais plus comment il s'appelle, Yılmaz. Oh là là, qu'est-ce qu'il a bouffé des contre-attaques.
Le blond là, peroxydé.
Parce que franchement, en transition, il pouvait leur faire très mal. Mais toutes ces dernières passes,
Il a mangé la feuille.
Merci, messieurs. Real Madrid qui sont imposés face à Benfica, 2-1, avec un but de Vinicius et de Tchouaméni. Un joli but et un super match de Tchouaméni. Hein, qui
a un but à la crosse un peu.
Un but à la
Toni Kroos. Il a été homme du match, non ?
Homme du match, un match costaud. Depuis ces derniers temps, en tout cas, il est très bon depuis le début de saison.
Ouais, Tchouaméni fait
des bonnes performances. Hein. Bon, c'est pas récompensé par les matchs du Real Madrid. Bon, après, ils sont que deuxième de Liga. Mais voilà quoi. Mais
Tchouaméni, lui, individuellement,
en tout cas, c'est bon. Et même Kamavinga commence à retrouver un très bon niveau.
Tant mieux pour nous, pour le mondial.
Tant mieux pour les Français.
C'est de bonne augure.
Ouais.
Après, vu que c'est un joueur qui se blesse beaucoup, j'espère qu'il restera sur la même dynamique.
J'espère aussi. Pas grand chose à ajouter. Real ont gagné 2-1.
Après, Vinicius, c'est bien. Il continue sur sa lancée.
Continue.
Et
là,
je pense que.
C'est son cinquième match d'affilée où il marque.
Tout le monde a tenté ce retour-là de Vinicius et il faut qu'il continue comme ça.
Mais le 8e va être difficile. Parce que du coup, on parlait
Manchester
aussi.
Manchester City pour la énième fois encore.
Ouais.
On parlait de 2019. Ouais. Là aussi,
il y a eu
des bons matchs.
Je crois. Ouais. Il y a eu. Ça fait 6 sur 7.
Ouais.
Il me semble.
Non, je crois pas.
À vérifier, mais il me
non,
semble.
Non, je crois que depuis 2019, ils les ont. Au moins une fois. Si c'est pas en phase de poule, c'est après.
Ah, phase de poule peut-être. Mais
ils les ont en tout cas à chaque fois. Depuis 2019, ils les ont.
En tout cas, on doute souvent sur la première partie de saison de l'importance de la phase de poule, de la phase de ligue, de Ligue des Champions, en disant ouais.
En sachant
gros...
qu'ils sont déjà eu.
Ouais, en phase de poule là.
Non, mais on doute dans le sens les gros, ils gèrent, etc. On va voir et tout. Mais là, on se rend compte quand même que ceux qui ont fini tout en haut. Le tableau il est ouvert et globalement tu finis dans les 3 ou dans les 4, t'es sûr de recevoir à domicile pour tous tes matchs retour, donc déjà c'est un avantage, et tu croises en 8e de finale contre un adversaire qui est quand même plus faible, qu'on le veuille ou non, quand tu croises Galatasaray ou que tu croises Leverkusen, ou que tu... c'est... si t'es une grosse équipe, t'es quand même déjà quasiment en quart de finale.
Mais ceux qui ont terminé aussi dans les premiers et qui se retrouvent du côté du PSG, c'est pas le même avantage non plus.
Parce que Chelsea, ils ont terminé dans les premiers.
Ah oui, c'est ça.
Ou le Bayern.
Ouais, voilà.
Chelsea, ils ont terminé dans les premiers et pas dans les tout premiers.
Ouais. Parce que bah, le Bayern, ils ont Atalanta quand même. Bayern, ils ont Atalanta.
Oui, mais Atalanta, c'est pas City.
Tu t'as pas
pris.
Ça va, c'est pour ça que je dis que ça va. C'est bien. En gros, pour les quarts, jusqu'au quart, ça va. C'est qu'à partir des quarts, ça va chauffer.
Les 3 ou 4 premiers.
De toute façon, à partir des quarts, tu ne peux pas te cacher en Champions.
Bah,
à partir des quarts, c'est très rare.
Après, de l'autre côté, ils peuvent se cacher encore.
Arsenal va se cacher un peu, je pense.
Arsenal, ils ont un tout droit.
Arsenal va se cacher. Il y aura un Barça Atlético normalement.
Attention, c'est là que Bodo Glimt entre en jeu.
Attention,
messieurs. Et on va faire la transition. Bodo Glimt qui ont sorti l'Inter Milan. Ça, tu l'as mal vécu, Jason?
Franchement,
la double prestation des interistes était catastrophique.
Sur le match aller, Bodo Glimt, franchement, ils ont été au-dessus.
Mais il
n'y
a pas eu de réaction, même dès l'aller, il n'y a pas eu de réaction côté Inter.
Non,
pas une
mais
seule fois,
en fait,
sont dit, on va hausser.
Si les premières minutes, on va dire les.
Non, mais dès qu'ils ont pris des buts en tout cas.
Non, ils n'ont pas su avoir de répondant. Mais le retour, quand j'ai vu que l'absence de Lautaro, il n'était pas sur la feuille de match, je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Bon, Thuram, en vérité, ça devrait faire l'affaire avec Pio Esposito, mais le jeu de l'Inter, franchement, il était à vomir. C'était que descendre. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de football. Tu avais l'impression que c'était l'Inter Bodo Glimt. Des joueurs qui sont censés avoir 10 caps au-dessus des joueurs de Bodo, ils ne sont pas capables de faire des redoublements de passes. Rien, c'était balle sur le couloir. Et on met dans la boîte, parce qu'il y a de la taille. Et au final, tes occasions, c'est que ça. Et Bodo, en transition, ils ont fait très mal.
Ah ouais, non,
ils sont pas venus 50 fois.
Non, puis ce qui est fou, c'est que c'est le premier du championnat italien qui, en plus, survole largement le championnat italien. Ouais, largement le championnat, quoi. Ouais,
donc,
ouais.
Faut se poser des questions sur le championnat italien.
Bah oui.
Bah, après, faut féliciter Bodo Glimt. Moi, je pensais que l'Inter allait faire la remontada pour le coup.
Bah, double victoire en plus.
Mais
à l'aller puis retour. Hein.
Franchement, sur le match, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, Bodo Glimt méritait largement sa victoire. Et oui, franchement, faut se poser des questions quand même. T'es vice-champion d'Europe en titre, c'est quand même pas rien. C'est pas la petite équipe du coin, mais il faut quand même souligner la performance de Bodo Glimt qui a réussi à battre City, qui a réussi à battre l'Atletico, qui a battu l'Inter.
Et là il joue le Sporting.
Là, il joue le Sporting. Waouh, quand même, pour une équipe, moi, je connais aucun joueur du Sporting de Bodo Glimt. Je suis quand même impressionné.
Ogue, maintenant, je connais bien.
Ouais, il y a Ogue.
Je connais bien.
Il y a Ogue aussi, je crois.
Après, c'est une équipe que je suis depuis.
Je pense que maintenant, Jason doit tous les connaître.
Non,
par
moi, je les connais depuis un moment parce que je suis souvent le championnat norvégien. Donc, je les connais depuis un moment.
Tu as vu les matchs à la télé ?
Bah en fait, bon, je veux pas dire le site, mais je peux voir les matchs souvent, et il y a même un attaquant de Marseille qui est venu qui est passé par là-bas, qui est Moubagna.
Moubagna
était là-bas, et là-bas aussi il a marqué ses buts. Mais c'est une équipe que je suis depuis plusieurs années, qui ont sorti beaucoup de joueurs. Par exemple, ils avaient un attaquant qui s'appelait Junker aussi. Après, c'est des joueurs qu'on permis d'aller à, il est parti en Asie, dans un championnat plus asiatique, où ils ont leur carrière en Norvège, puis ils s'exportent, mais s'exportent, en fait, ils ont du mal. Parce que souvent, c'est des joueurs qui sont forts chez eux, mais dès qu'ils sortent de leur territoire...
Ouais, il y a l'environnement.
Voilà. Par exemple, Ogue, il a été à Francfort, il a été au Milan, mais il n'a pas réussi.
Puis il y avait Berg aussi.
Berg a été à Lens.
Il a été à Lens,
ça n'a pas marché. Il y a Rennes qui a recruté aussi leur numéro 8, Grönberg. Qui a fait une très bonne saison la saison passée. Et à Rennes, il n'a pas su s'imposer. Ouais, et là, il a été prêté je ne sais où. Mais sinon, quand ils sont tous dans le même collectif, j'ai l'impression, le fait qu'ils parlent tous la même langue, et il y a très peu d'étrangers dans leur équipe. Il y a un Danois et un Russe. Le Russe au cage et l'attaquant au gueux devant. Mais sinon, c'est une très, très, très belle équipe. Et le coach... Franchement, il va pas rester très longtemps là-bas si ça continue. On va aller... Surtout les Allemands, ils aiment les coachs comme ça un peu.
Qui jouent beaucoup, transition rapide, jouent ouvert.
Il y a moyen qu'ils se fassent embarquer. Surtout que j'avais entendu parler aussi que Klopp l'avait appelé pour avoir des renseignements et comme quoi il n'avait pas répondu parce que Klopp voulait des renseignements pour le Paris FC. Donc,
il a préféré qu'on boire, c'est kiff-kiff.
Je pense pas que c'était son choix, ça.
En tout cas, voilà, on va, excuse-moi, Jason, mais on va juste poursuivre parce qu'on commence à prendre du retard. Bayern Munich, du coup, eux qui affronteront l'Atalanta, hein, qui devront venger leur homologue Dortmund, qui s'était imposé 2-0 et qui se sont inclinés 4-1 face à l'Atalanta. Gros coup des Italiens, hein. C'est le seul coup des Italiens d'ailleurs qui a bien fonctionné. Atalanta qui sont relancés. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que Dortmund s'est sabordé totalement sur la dernière action en dit long quoi, entre le comportement de Kobel, le gardien, le geste défensif de Ben Sebaini qui est catastrophique, qui n'existe pas au niveau professionnel.
Sa prestation
globale parce qu'il est fautif sur plusieurs buts, mais là le attaquer un 94e un ballon en aile de pigeon de ta surface comme ça là, c'est vraiment trop bizarre ce qui s'est passé. Donc un gros flop pour Dortmund. Pour le coup, c'est vraiment un coup d'arrêt parce que leur championnat, il est terminé. Ils sont à 9 points du Bayern ou 10 points, c'est terminé. Leur Ligue Champion est terminé.
En une semaine, ils ont tout perdu.
C'est assez dramatique ce qui s'est passé. La saison, elle est KO. Et l'Atalanta, franchement, c'est une des équipes qui m'a le moins impressionné depuis ce début de saison en Ligue des Champions.
Et c'est eux qui font les résultats.
Donc, des fois, il y a des trucs dans le foot, il ne faut pas chercher à comprendre trop. Mais en tout cas, ils sont en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, bravo à eux. Mais je vois pas encore comment.
Terminus.
Ça va s'arrêter là.
Karabakh qui sont inclinés 3-2. C'était moins dur en tout cas qu'au match aller. Newcastle qui auront défié le FC Barcelone. Est-ce que vous pensez que Newcastle ont des chances?
C'est possible.
Ça va être bourbier. Mais...
Il y avait déjà eu un match de phase de poule. C'était compliqué. Peu à côté. Parce que c'est 2-0. Mais c'est un match où Newcastle ont pas mal d'occasions. Mais ne finissent pas.
Mais Newcastle, c'est chiant de toute façon. Ils jouent là-bas.
Franchement, là, je vois pas moi dans quel monde Newcastle pourrait battre Barça.
En fait, à l'aller, ils peuvent les embêter. Et le retour.
En fait, si le retour, il aurait été à St. James Park, ça aurait été possible.
En vrai, s'ils prennent déjà une avance à domicile, moi, je pense qu'ils peuvent tenir le coup. Après, si.
C'est pas le style d'équipe à mettre une avance contre un concurrent direct.
S'ils mettent une avance, je pense qu'au retour, Barça, ils vont ouvrir le jeu avec la défense du hors-jeu. Il y a moyen de faire quelque chose, en tout cas. Mais je ne vois pas, en fait, parce qu'ils ont beaucoup d'attaquants. Mais ils sont trop moyens en fait. Les Johan Mise, etc. En forme, je t'aurais dit oui, pas de soucis. Ou ça serait le Newcastle de 3 ans. Je t'aurais dit, il n'y a pas de soucis. Mais là, cette saison, ils font pas une bonne saison
non,
du tout.
Ils font
pas une bonne saison du tout. Et leur
meilleur joueur,
ça
a du mal à
Gordon même, c'est 5 pénalties ou 6 pénalties.
Et puis derrière, ils vont prendre cher. Hein, parce que quand tu vois l'attaque du Barça qui va peut-être revenir au complet à un moment.
Après, encore à domicile, ils peuvent les tenir.
Oui, bien sûr. Sur leur terrain en bas,
sur leur terrain, ils peuvent les tenir. Mais après, j'avoue, avec les espaces du Camp Nou, ça risque d'être compliqué.
Je pense que le match retour, ça va être un calvaire pour nos amis de Newcastle. Là. Je vois dans aucun monde, je vois le Barça perdre, en tout cas personnel.
Merci. Et Sporting, Bodø/Glimt,
Eh ben Bodo, dans sa lancée.
Oh, ouais, moi aussi, je vois Bodo Glimt.
Ouais.
Je me dis, bah, pourquoi pas. En plus, ils sont offerts des scalps des grands clubs. Donc, pourquoi pas lancer. Et franchement, le Sporting, bon, ils ont fait quelques exploits comme battre le Paris Saint-Germain, mais franchement, dans le jeu, c'est poussif.
Partagez-nous l'info, messieurs.
Rétafé vient d'ouvrir le score, ça triana face au
Mais surtout, un but de fou. Il met une volée de 20 mètres en dehors de la surface. Et c'est le Satriano qu'on a vu à Lyon toute la première partie de saison qui était incapable de cadrer à 3 mètres du but. Et là, il met le but de sa vie. Il met le but de sa vie, vraiment.
Bah, généralement, contre les grosses équipes, tu te dis, je pense que tu penses. Contrat. Et tu te dis, voilà, et tu te dis, faut y aller, quoi.
C'est exceptionnel. Courtois, il a pu juste aller la regarder, mais c'est.
Ouais, non, il pouvait pas la chercher.
Ah, non, c'est dingue. C'est le geste de sa vie, c'est le but de sa vie. C'est bien.
Bravo, ça, lui, il prépare son contrat pour l'année prochaine.
Ouais, bon, après, faut pas le recruter que sur ça, parce que le reste, c'est quand même pas fou.
C'est comme l'attaquant d'Osasuna, il y a pas longtemps, là, qui avait mis un joli but contre le Real.
C'est vrai.
Donc, voilà, en tout cas. Du coup, Bodo Glimt Sporting.
Oui, moi je vois Bodo. Après, un match, ça va être très très compliqué au Portugal. Parce qu'avec leur attaquant Suarez qui se prend pour le vrai Suarez dans son championnat, il terrasse tout.
Lui, c'est une grosse perte pour Marseille. Là, c'est une grosse perte.
Et franchement, je sais pas comment il s'est transformé, mais c'est devenu un serial buteur. Ouais. Et oui, à domicile, le Sporting, ça peut être dur.
Je me rappelle quand on disait qu'il avait les pieds corchus sur des plateaux. Non, mais c'est ce qu'il disait, qu'il joue avec les pieds à l'envers, qu'il a des pieds corchus.
Là, c'est devenu un tueur.
C'était pas fameux à Marseille, il faut dire la vérité.
Non, après, oui, tu sentais que. On dirait que tu avais pris un joueur de Ligue 2 qui était un peu perdu sur le terrain, mais qui avait de l'envie, qui se bagarrait, mais c'était trop limité.
Après, je pense que son niveau qu'il a là, même lui, il y croyait pas.
C'est sa saison qu'il a fait à Almeria qui lui a donné de la confiance.
En Ligue 2
Déjà, à Almeria, il a
fait. Oui, il a fait une grosse saison.
En Ligue 2, donc tu peux te dire Ligue 2 espagnole, ok. Mais là, Ligue des Champions, c'est un délire ce qu'il est en train de faire. Et moi, je vois le Sporting passer.
Ah, ok. Du coup, le Bayer Leverkusen, Arsenal.
Ça, il n'y a pas besoin de débattre.
Attention.
Il n'y a pas besoin de débattre.
D'accord,
ça.
On en reparlera. Et l'Atlético de Madrid, qui ont cartonné Club Rouge, 4 buts à 1, et qui vont jouer contre Tottenham.
Ah, ça, c'est un match intéressant.
C'est illisible total.
Ouais. Deux équipes bizarres.
Deux équipes irrégulières, bizarres.
Deux équipes qui peuvent faire la diff à domicile.
Je dirais l'Atlético quand même, mais par défaut.
L'Atlético,
Le retour, il est où?
Ce week-end encore, il était nul.
Il est à Tottenham.
Ah là! Tottenham, c'est une équipe bizarre, mais à domicile, t'as l'impression.
En Ligue des Champions, Après, c'est ce que je disais, ils n'ont pas joué contre des grosses équipes aussi en Ligue des Champions.
Oui, c'est vrai.
Ils ont joué que Dortmund.
Mais les deux, c'est invisible. Franchement, les deux, c'est. Parce que l'Atlético, encore ce week-end, j'ai regardé leur match. C'était horrible.
Ah, mais ça, ils ont fait une croix sur le championnat, l'Atlético.
Ah, ils ont fait une croix.
Ils vont terminer sur le podium. Ils veulent Coupe du Roi et Ligue des Champions, aller le plus loin. Mais ils ont fait une croix sur le championnat, il fait tourner.
On va voir s'ils ont fait une croix, en tout cas, du moins sur le championnat. Justement, on va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Liga. Le Cholismo, oui, le Cholismo, encore dans le Money Time. L'Atlético de Madrid qui ont marqué au bout du bout 90 plus 4, un but de Julian Alvarez, ce qui a permis à l'Atlético de Madrid tout simplement de s'imposer face. Attendez.
C'est Oviedo.
Oui, face à Oviedo, pardon, merci. Face à Oviedo, 1-0, c'était poussif. Et finalement, voilà, ça a fonctionné. Et ils passent devant Villarreal. Villarreal, eux, qui se sont inclinés 4 buts à 1 face au FC Barcelone. Et le Real Madrid, tout simplement, qui sont en train de jouer le match face à Getafe, qui sont en train de perdre 1-0 à Bernabeu.
Ah oui.
Et oui, un but de Satriano, c'est ce qu'on disait.
Ouais, qu'on voilà.
Et contre Getafe. Et on a eu aussi le derby, Betis-Séville, FC Séville. Betis-Séville menait 2 buts à 0 avec un super but d'Anthony. Et finalement, ils se font rattraper au score. 2 buts partout. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces matchs?
Moi, concernant, bon, déjà, je voudrais. Pour moi, le Marseille de retour, et de sur de bons rails, avec un Lamine Yamal exceptionnel, notamment son deuxième but, où il a fait très mal à Villarreal. Et en tout cas, on a retrouvé le Barça qui pressait haut, qui avait un.
Puis l'entrée de Pedri aussi, qui change tout à cette équipe.
L'entrée de Pedri, mais aussi j'ai bien aimé aussi comment Rafinha s'est placé justement dans le demi-espace, justement bleu, surcharger le côté gauche pour libérer Yamal. Et en tout cas, voilà, on a retrouvé des principes de flic qu'il avait lancé dans ses débuts au Barça, et franchement, c'était un régal. L'Atlético, c'est poussif comme d'habitude,
ouais,
mais génial. Voilà, ça passe, c'est l'Atlético, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc voilà, en tout cas, ça annonce déjà la couleur pour le match retour en Coupe du Roi, où voilà, on va voir une équipe qui va tout donner, qui va à l'abordage, et une équipe qui va bétonner comme elle sait faire.
Après ça, vas-y.
Ouais, voilà, donc non, après je...
Non, ça reste dur d'analyser une journée de Liga, sachant qu'on n'a pas le résultat du Real encore. Si le Real gagne 3-1, c'est quand même pas la même analyse que si là, il continue à perdre, parce que là, s'il perd, ça fait 4 points d'écart.
Ouais,
donc même un classico pourra
ah,
pas...
ça devient compliqué, là.
Dans l'optique où même tu bats le Barça au Barça, ce qui n'est pas fait, malgré ça, tu t'es pas devant. Donc, je pense que la victoire est quand même très importante ce soir pour le Real, parce qu'il y a quand même une suite de saison et faut pas handicaper ses chances.
Je suis d'accord avec toi, mais après, que ce soit le Real ou le Barça, c'est pas le meilleur Barça de ces 10 dernières années.
Bien sûr.
Comme
oui,
c'est pas le meilleur
moment,
Real.
Hein. Ouais. Ouais, ça fait un moment. Ouais.
Donc je me dis, tout est possible. 4
bien
points,
sûr,
ça va
possible.
Vite. Hein.
Bien sûr, mais mon analyse est différente en tout cas. S'il y a moins 1 ou moins 4, je réfléchis pas de la même, de la même manière. Et en ce moment, vu les forces en présence, je me dis pas que le Real va faire qu'une bouchée du Barça au Camp Nou. Donc. Je serais un peu déçu que ça se fasse comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait un mano à mano jusqu'au bout et qu'on puisse vibrer sur ce classico avec le vainqueur qui sort champion. Ce serait top. Et sinon, pour reparler du Barça, Yamal, franchement, c'est un délire. Je veux bien que chacun ait ses goûts dans le football, que chacun préfère un tel ou un tel, parce qu'on a tous nos appétences, nos clubs, nos styles, etc. Mais pour moi, le style de Yamal, tu peux pas être indifférent. Si t'es indifférent à Lamine Yamal sur un terrain de football... Faut changer de sport, faut aller regarder du tennis ou du handball. Tu peux pas ne pas aimer ce style-là. En fait, le mec, il a tout, il a la vision, il a la passe, il a la frappe, il a le petit gris-gris, le truc hein, toujours assez efficace.
C'est après la frappe, il commence un peu à se la découvrir, parce que
bien sûr.
Ce qu'on lui reprochait, c'était surtout ça, le manque d'efficacité.
Mais après, ce qu'on lui reprochait, il avait 17 ans, donc bon, ça, encore heureux qu'il y ait quelques reproches à faire. Mais qu'on aime, enfin, on est obligé d'aimer ce genre de joueur. C'est moi. Quand je regarde quand le week-end j'ai eu ma télé, je coche le match de Yamal. Il va se passer un truc.
Après,
je mets ma télé, il va peut-être se passer un truc.
Après, le truc avec Yamal, c'est quand il décide d'appuyer sur le bouton, il est inarrêtable. Ah, et on l'a vu encore là, c'est que comme il a dit Maxence, dès qu'il décide de quelque chose, il réussit. Donc, et quand il a envie d'être passeur, il va faire que descendre.
C'est ça qui est fabuleux.
Et quand il a envie d'aller chercher le but, parce que là, ces derniers temps, il cherche que le but. Donc il a envie de marquer, il cherche à marquer et il arrive à marquer.
Et malgré ça, il a 15 passes D déjà. Donc,
tu vois. Donc non, en ce moment, il est injouable. Donc après, on attend de le voir en Coupe du Roi ce que ça va donner sur le match retour, s'il va être capable de faire cette soi-disant remontada, surtout qu'ils ont pris le slogan d'un certain club.
Ça, j'y crois pas une seconde, ça.
D'un certain club ou de quelqu'un qui est à la table. Donc maintenant, on attend de voir.
On attend de voir.
C'est quoi, 90 minutes
ouais, voilà, 90 minutes.
Ça n'avait pas marché quand ils avaient dit ça, le Real. Hein, donc faut pas... Ah non, moi j'y crois pas une seconde pour demain, par contre. Débat mis à part,
je les vois prendre des buts, donc ça va être compliqué.
J'y crois pas une seconde. Et puis, ce serait pas plus mal. Mais je veux dire, si leur objectif c'est vraiment d'être champion pour la deuxième année consécutive, ou troisième, je sais plus.
Deuxième.
Ce serait la deuxième seulement, Ce serait la deuxième consécutive et d'aller faire un parcours avec des champions pour un peu venger la demi-finale de l'année dernière. Bah, s'il faut laisser la Coupe du Roi sur le côté, là. Demain, je pense que ça va tout tenter pendant une demi-heure. S'il y a 3-0 au bout d'une demi-heure, ils vont y croire. Si jamais il y a un partout, ça va être terminé et puis ils vont laisser couler la fin de match. Moi, j'y crois pas pour demain.
Ok.
Voilà, comme ça, la transition a été faite aussi pour le match de demain de Copa del Rey. Merci, messieurs. On va rappeler le classement. Barcelone premier avec 64 points. Le Real Madrid avec 60 points qui sont en 35 lignées à Retafé pour l'instant. Atlético de Madrid à égalité avec Villarreal, mais différence de but. Atlético de Madrid ont une meilleure différence de but, donc sont devant le Villarreal. Villarreal quatrième à égalité. Betis Séville 5e avec 43 points. Celta Vigo 6e avec 40 points. Celta Vigo aussi qui se sont imposés ce week-end.
Et qui affrontera Lyon en 8e de finale d'Europa League.
Qui affrontera Lyon en demi-finale d'Europa League. Merci Maxence. Voilà pour la Liga. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Première Ligue.
Ouais,
allez,
c'est parti.
la Première Ligue. Liverpool qui ont tout simplement écrasé West Ham, hein, 5 buts à 2, qui ont été ultra réalistes, hein, on peut le dire, et restent dans la course au top 4. Manchester City met la pression sur le leader en s'imposant 1 but à 0 face à Leeds. Les leaders, eux, qui se sont imposés 2 buts à 1 face à Chelsea, ils se sont pris un but dans les dernières secondes, hein, Chelsea qui a été réduit à 10, mais un but refusé. T'as dû souffler, Omar, un but refusé dans les dernières secondes, en tout cas, pour
on est toujours dans le train. On est
toujours dans le train, Arsenal.
Toujours dans le train, il y a de la place, comme je l'ai dit.
Il n'y a pas grand monde qui a envie de monter, en tout cas, je pense. Hein.
Ouais. Ah, fallait y être dès le 1er août. Hein. Ouais. Ah, les gars, tu peux pas rejoindre le train en mars, là. C'est
non,
trop
mais
tard.
Je l'ai fait une fleur.
Bah, surtout, mais tu peux le quitter en mars. Hein, c'est le moment de l'été.
Oui, mais après, si tu croyais en août à 0-0, pourquoi tu croirais pas à plus 3? Tu vois, c'est.
Bon, en tout cas, moi j'y crois.
Pas à 0-0 quand même. On a repris au mois d'octobre. Ouais. On avait déjà quelques signes de City qui perdent des points. Liverpool, ça commençait bien. Et avec Liverpool, ça commençait bien. Mais Arsenal et Liverpool, c'est les seuls deux à qui ça commençait bien, quoi. On peut dire ça comme ça.
Après, franchement, moi je trouve que, bon, on va dire, c'est la chance du champion pour moi. C'est la chance du champion. Moi je le vois comme ça. C'est que ça a été poussif dans le jeu. C'était pas le meilleur match de première ligue que j'ai vu de ma vie. Voilà, c'était des équipes finalement fidèles à ses réputations. Sur coup de pied arrêté, on a fait la différence, plus précisément par corner. Et voilà, sinon, il n'y avait pas grand-chose à retenir, en tout cas au niveau du terme de la prestation.
Après, t'es vraiment un gunner, toi? T'es vraiment pour Arsenal, vraiment?
Non, juste...
Parce que moi, je ne suis pas pour Arsenal, c'est
non,
juste
non,
pour
non,
Paris.
C'est,
mais...
c'est juste pour taquiner, taquiner notre ami ici. Mais voilà, donc j'ai... En tout cas, voilà, je suis toujours confiant pour Arsenal. Et je me dis, d'habitude, dans les matchs comme ça, ils auraient laissé des points. Moi, c'est ce que je vois. Et là, je me dis, pourquoi pas,
Mais après, je trouve qu'Arsenal, il laisse plus des points contre des petites équipes à l'extérieur que contre les gros. Contre les petits, quand ils, admettons, je te dis comme ça, des Brighton,
Wolverhampton.
Voilà, des équipes un peu où ils se sentent supérieurs. Ouais. Au lieu de les appuyer, ils les laissent toujours espérer. Et au final, ils ont toujours le retour du bâton. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait cette saison que tous les points qu'ils avaient en plus se sont réduits. Donc, ce n'est pas forcément les confrontations contre les gros, c'est plus contre les équipes qui ont besoin de points et que contre Arsenal, ils arrivent à arracher des nuls. Et au bout d'un moment, les nuls, ça ne te fait pas avancer et tu te fais rattraper.
Moi, je pense que la facilité d'analyse d'Arsenal, c'est de parler encore de problèmes mentaux, etc., de l'équipe de losers et tout. Mais ça, je pense, dans le football actuel, c'est de moins en moins vrai parce que les joueurs changent tellement vite de clubs, de saisons, etc., qu'on ne peut pas baser quelque chose d'il y a 5 ans, 3 ans, 4 ans sur des effectifs d'aujourd'hui. Les mecs, ils n'ont pas connu, ils n'étaient pas là, ce n'est pas les mêmes joueurs, c'est souvent pas les mêmes coachs, c'est souvent très différent. Mais moi, le problème d'Arsenal, il n'est pas mental, en fait. Le problème d'Arsenal, c'est un problème de niveau. Dans ce qu'ils proposent dans le jeu, c'est une machine à corner, mais sinon... Je trouve ça quand même, quand ça veut pas et quand ça marque pas très tôt, c'est compliqué dans ce qui est proposé, tu vois.
C'est parce que Arteta, maintenant, il souhaite être que solide.
Ouais, voilà. Et...
Il veut pas perdre, mais s'il gagne, comme tu as dit, c'est sur un coup de pied arrêté. Tu vois, mais en tout cas, il veut pas prendre de but, il veut pas prendre de risque.
Alors que pour moi, là où ils sont le meilleur, c'est quand ils ouvrent un peu et qu'ils acceptent d'en prendre un ou deux pour en mettre trois ou quatre. Mais c'est une vision un peu flippée d'Arteta. Et plus globalement, moi, la Première Ligue cette année, comment elle me déçoit.
Ouais, les matchs, ils sont décevants.
À chaque fois que je me pose le dimanche 17h en me disant « Ah, ça va être bien !» À chaque fois, 90% du temps, c'est un flop. Et moi, je suis désolé, c'est pas pour défendre la Ligue 1, mais... La Ligue 1, globalement, quand on se pose devant un gros match, on en a pour notre argent à un moment ou un autre. Même si c'est des équipes moins fortes, même ce que vous voulez. Hein. Mais je me pose devant un Lens Strasbourg, mais j'en ai pour mon argent. Je vois des choses. Je vois du football. Hier, je me pose devant Arsenal-Chelsea. Je m'ennuie. C'est incroyable.
Oui, et les...
Après, c'est des équipes qui mettent beaucoup d'intensité.
Ah oui,
il y a très peu d'occasions. C'est beaucoup de bagarres.
Il n'y a pas de joueur techniquement qui ressort sur un geste. C'est tellement dur. Et autant il y a 4-5 ans, il y avait déjà de l'intensité, mais peut-être un peu moins. Et donc des joueurs comme Eden Hazard,
des De Bruyne,
à sortir. Et là, quand on voit le comportement de certains joueurs, des Saka, des Cherki, des Wirt, souvent ils sont étouffés en fait.
Ouais,
souvent ils sont étouffés, c'est très 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 compliqué. Donc moi, c'est le football qui me dérange, qui me plaît pas tant que ça. Et à la même heure, le samedi, il y avait le classiqueur Dortmund-Bayern. Ouais. Franchement, c'est quand même beaucoup plus plaisant.
Régal,
quoi.
C'est, je me suis régalé.
C'était exceptionnel. Régal. Parce que ça joue des deux côtés. On sait que le Bayern est meilleur, mais Dortmund, ils en voient quand même. C'est ouvert des deux côtés. Il se passe des choses. Arsenal-Chelsea, franchement, c'est, ouais. Si vous manquez de sommeil, vous avez fait des insomnies, posez-vous devant. Hein.
Et ils ont un match de plus, en plus.
Oui, ouais. Arsenal, oui, c'est pour ça qu'ils ont un match de plus. Parce qu'ils sont à deux points, normalement, en termes de trucs.
C'est loin d'être joué. C'est loin d'être joué.
C'est loin d'être joué. En tout cas, ouais. C'est ce qu'on répète à Omar.
C'est ce qu'on répète depuis le début de saison.
Ouais. C'est ce qu'on répète depuis le début de saison. Mais voilà.
Je suis serein.
Manchester United.
On
est obligé de parler de Manchester United.
Franchement.
Manchester United qui se sont imposés 2-1.
Mais c'est l'équipe du moment.
Face à Crystal Palace, 7 derniers matchs.
Mais là, ça fait 11 matchs invaincus.
Oui, et ça fait sur les 7 derniers matchs, en tout cas depuis que Carrick est là, ça fait 6 victoires.
1 nul.
C'est incroyable. En ce moment, cette équipe, elle marche sur l'eau. T'as l'impression qu'ils peuvent être menés 2-0, 3-0. Soit ils perdent pas, soit ils vont aller chercher une victoire. En tout cas, il a changé la mentalité de cette équipe qui était du début de saison où on se disait oh, on sait pas si. Ça va se jouer comme ça, un coup ils perdent, un coup ils font deux bons résultats. En fait, c'était trop aléatoire. Mais là, il a réussi à motiver cette équipe. Après, tu sens que c'est quelqu'un qui vient du club, qui a vécu dans ce club.
Il a
cet amour pour ce club et je pense qu'il a réussi à le retransmettre à son collectif. Et ça, on voit la différence. Mais même les hommes, on dirait, c'est même pas les mêmes que Amorim avait. Quand tu vois Mbeumo, quand tu vois Cunha, Sesko, j'ai l'impression que Sesko, il est transformé en Haaland. À chaque fois qu'il rentre, il marque. Donc, franchement, non.
Il est titulaire, il marque.
Ouais.
Franchement, épaté de cette équipe de Manchester United.
Comme quoi, c'est pas mal de s'adapter à ses joueurs et d'essayer de les mettre dans des meilleures conditions sans inventer des trucs de sorciers fous, là. Parce qu'on a quand même analysé United pendant un an en disant « Ah, il peut pas jouer mieux que la 14e place, ils ont pas les joueurs. Oh là là, ils sont vraiment nuls, ces joueurs. Ils arrêtent pas d'être empilés. Au final, ça donne jamais rien. Au final, on voit qu'il y a quand même des joueurs de qualité dans cette équipe. Enfin, je suis désolé, il faut juste le manager qui arrive à les mettre bien comme il faut. Je dis pas qu'ils vont être champions d'Europe, mais je dis que t'as quand même moyen d'aller chercher le top 4 en Angleterre et d'aller faire un quart ou un huitième de Ligue des Champions avec cette équipe-là.
Non, c'est bien,
t'as
il y a bien de tellement loin.
T'as des top joueurs quand même.
En plus. Ouais.
T'as des top joueurs dans cette équipe. Ouais. Bruno, c'est un top joueur. Bemo, c'est un très bon joueur aussi. Sesko.
Mais là, le pire, c'est que tu vois, là, quand on peut dire qu'on a retrouvé le grand Manchester, c'est que Manchester a battu City, Arsenal, Tottenham.
Ah, il faut pas être jaloux dans la course au titre.
Là, ils ont pas cherché à trier. On abat tout le monde. Et ça fait plaisir de retrouver en tout cas ce Manchester depuis club souffre.
Quelques années.
Franchement, ça fait longtemps qu'en j'ai pas vu un Manchester comme ça. Et
c'est bien.
Elle est loin, l'équipe qui s'est fait sortir par... comment ça s'appelle? C'est Grimsby ou un truc comme
Grimsby,
ça.
Ah, Grimsby, oui.
Bah, cette équipe de United même qui joue le maintien, tout simplement. Parce que Tottenham sont toujours en train de jouer le maintien. L'année dernière, ils jouent le maintien.
L'année dernière, United fait 17e, je crois.
Oui, c'est ça, c'est pour ça. Et cette année-là, c'est Tottenham qui joue le maintien. Or qu'ils ont terminé dans les 8 premiers Ligue des Champions. Vraiment pour vous dire aussi le niveau de la PL quand même. Non mais aussi, parce qu'il faut être là tous les week-ends. Tottenham qui ont d'ailleurs encore perdu ce week-end.
Mais pourtant Tottenham, ils lâchent des sous sur des joueurs en fait qui sont même pas adaptés à leur équipe, à leur formation. Et au final, les joueurs après, tu vas entendre que l'année prochaine ils partent. Et en fait, ça fait que ça. Il n'y a aucune stabilité. Là, ils ont encore changé de coach. Le coach qui vient d'arriver,
il va
pas rester longtemps. Donc au final, Tottenham, je sais même pas dans quel état ils vont être l'année prochaine, mais déjà à la fin de saison, comment ils vont tenir? Parce que ce club-là, en fait, ils ont remplacé Manchester.
Je pense que si j'étais un bon joueur de foot et qu'on me propose d'aller à Tottenham, j'irais pas.
Ah non, c'est un bourbier.
Quel salaire.
Ouais, c'est un
bourbier. Vraiment un club catastrophique.
Après, si t'es en Ligue 1 et qu'on te demande d'aller à Tottenham, même si tu sais que dans 6 mois tu reviens en Ligue 1,
si
mais au moins t'as le salaire de première ligue.
T'as le salaire de première ligue, mais t'as aussi la visibilité. Tu te dis si je fais des bons matchs, et en PL, il te faut pas, je sais pas combien de matchs. Voilà, tu fais 5-6 bons matchs, c'est bon. Voilà, on va te faire signer pour je sais pas combien.
Parce que même la dernière fois, j'étais choqué quand j'ai vu Colomoini quand il a marqué contre. C'était contre qui?
Oui, c'était contre une grosse équipe là.
Ouais, contre une grosse équipe.
Bah, contre Arsenal, non?
Non, c'était pas Arsenal.
C'était pas pendant le derby?
Si c'était Arsenal. Et Colomani, en fait, il avait même pas marqué depuis je sais pas combien de temps, je crois, depuis le match du PSG.
Ouais.
Et là, c'est là que je me dis, attends, il y a un problème. Je dis, en fait, si tu regardes que les gros matchs, il a marqué que dans les gros matchs et entre temps, il a rien fait. Je dis, mais alors que, heureusement qu'il est que prêté, hein, parce que...
Et puis, vous dites briller à Tottenham pour partir ailleurs, mais Tottenham, ils lâchent pas facilement leurs joueurs aussi, hein. Ils ont cette réputation d'être très très durs en égo.
On va les lâcher parce que franchement, pour ce qu'ils montrent sur le terrain.
Oui, non, mais quand ils sont bons. Ouais. Ouais, parce que quand ils sont mauvais, là ils vont tout. Ils vont tout...
Après, la perte de Maddison leur a fait beaucoup de mal aussi parce qu'ils ont plus de créateurs.
Oui. Maddison était bon. Et Richarlison qui se blesse toutes les deux semaines. Ouais. Solanke aussi qui n'arrive pas à enchaîner.
Et Solanke, même après, il est pas vraiment.
Il avait mis un beau doublé contre City.
Ouais, mais c'est pas des joueurs réguliers. Tu vois, c'est dans... Je pense que c'est des clubs un peu trop hauts. Lui, il est bien dans les clubs comme il était à Bournemouth, où tout le monde joue pour toi. Ben que Tottenham, depuis que Kane n'y est plus...
Moi, j'ai pas compris la gestion de Brennan Johnson. Hein, qui faisait.
Ouais, pourtant, il était bon, lui.
Et qui marquait, qui était...
Je sais pas pourquoi ils l'ont laissé partir.
J'ai pas compris. Non, mais déjà, le fait de le reléguer sur le banc, etc., j'ai pas compris. La gestion de Brennan Johnson reste un mystère pour moi, hein. Vraiment. Ouais. Mais voilà, en tout cas, pour la PL, hein, Tottenham qui sont inclinés. Hein, Arsenal qui s'impose 2-1, comme on le disait. Tottenham qui s'incline 2-1 face à Fulham. Aston Villa... qui s'incline aussi 2-0 contre les Wolves. Là, Aston Villa n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Ça devient compliqué pour Aston Villa.
Ça va être chaud de garder le top 4.
Parce que, en sachant que United vient de passer devant eux. Top 3. Ouais, il y a Liverpool qui sont à moins de 3 points.
Ouais, je pense que Liverpool va faire une grosse deuxième partie de saison, moi, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Ligue des Champions, on n'en parle pas parce qu'il y a des favoris qui se détachent, comme le Bayern, etc. Mais moi, Liverpool, je mettrais pas une petite pièce, mais je dirais attention. Parce que celui qui va taper Liverpool, je vois pas trop encore qui c'est.
Ouais. Mais les Wolves, là, depuis qu'ils sont en roue libre, ils font mal à tout le monde.
Bah là, ils se disent, de toute façon, on n'a plus rien à perdre.
Ah, tout le monde est là pour se montrer.
Ouais, ils veulent tous signer leur contrat. Ils veulent jouer leur prochain contrat. Et rester en PL aussi, c'est ce qui compte. Manchester City qui sont imposés sans Haaland, 1-0 aussi. Hein. Voilà.
Ouais, difficile, mais victoire de champion. Hein. Enfin, victoire nécessaire, parce que tu ne pouvais pas te permettre d'être à 8 points d'Arsenal, même avec un match en moins, donc ça aurait été compliqué. Et sans Haaland, on pouvait sortir le piège. Leeds, qui est une équipe qui...
Très difficile ces derniers temps.
Elle est pas simple à jouer. Elite.
Ouais, elle est pas simple à jouer. Même si ils ont des résultats qui sont en dents de scie, mais c'est une équipe qui peut t'embêter sur un match. Donc ouais, c'est une belle réussite pour City.
Voilà, merci messieurs. Téléphone posé. On part sur le quiz. Jason, c'est quand tu veux. Alors, pour la première question, quel joueur de Liverpool a marqué 2 buts lors du match retour de demi-finale face au FC Barcelone ? Non. En 2019.
Origi. 2019.
C'est pas Arnold ?
C'est non. Pas Mané ?
Non, non plus. Putain.
Firmino.
Salah ? Non, c'est pas Salah.
Non, c'est pas Mohamed Salah.
Mais en tête, j'avais Origi sur le corner d'Arnold, là. Il en met un.
Ouais, moi aussi.
En 2019, on voit tellement de matchs, quoi.
Tu mets le doute, hein.
Pour moi, c'est Origi. Vérifie, quand même.
Parce que je vois pas qui d'autre, hein.
Attends, je vais vérifier.
C'est toi, t'avais qui en tête ?
Si, moi, j'ai quelqu'un. Je suis sûr que j'ai quelqu'un.
C'est qui ? T'as Fabinho ?
Non, mais dis-le.
Donc, Wijnaldum.
Ah ouais,
Rigi en met un, je crois.
Il en met un seul.
C'est vrai, c'est Wijnaldum.
On l'a oublié, lui.
Wijnaldum.
Ah, j'ai oublié. C'est pour ça qu'il a mis ça audit, lui.
Tu vois,
c'est les affaires.
Monsieur, c'est pour ça que je vous ressors. C'est pour pas oublier ce genre de personnes qui ont marqué quand même l'histoire de.
Ouais, moi, ce match-là, vraiment, c'est.
Tu vois, le PSG, ils ont été quelques joueurs aussi.
Ouais.
Le PSG, ils ont été quelques joueurs aussi.
Ouais, il y en a qui se sont éteints tout seuls quand même aussi.
Lui, il a découvert la ville parisienne, ça l'a changé de Liverpool, lui.
Je vais vous dire ça me fait... Ah, je suis sur le match. C'est dans du 4-0. Et alors, oui, c'est bien ça, Origi aussi qui a mis un doublé.
Ah, donc j'avais raison.
Oui, oui. Donc un point
c'est
pour...
C'est doublé et doublé.
Doublé et doublé.
Ah, voilà. Ouais.
Doublé et doublé. Wijnaldum qui est rentré à la mi-temps, en fait, c'est vraiment lui qui a été le déclencheur. Parce qu'il est rentré à la mi-temps et il a mis un doublé en 2 minutes. Voilà, ça que j'aurais dû préciser. Qui a mis un doublé en 2 minutes
J'avais la bonne réponse.
Contre le FC Barcelone. Mais voilà, Origi aussi a mis doublé aussi. Oui, lui qui avait ouvert le score. Et ce qui avait permis à Liverpool de s'imposer 4-0 face à Barcelone. Hein, c'était la fameuse remontada. Ouais. Deuxième question. Qui a inscrit le but de la victoire en finale de Ligue des Champions 2021.
Salah.
Non,
Coman.
Pour Liverpool.
Avert.
Coman.
Avert.
Oui, Kai Avert.
Chelsea.
Oui, monsieur, ah, c'était Manchester City.
Ah, dans ma tête, je pensais à Chelsea. Ouais, ouais.
Kai Avert, c'est bien ça. Et ça fait un point pour Philippe. Quel joueur du Borussia Dortmund a marqué en finale 2013 contre le Bayern?
Gundogan. Lewandowski.
Oui, Gundogan. Il a été assez rapide. Oui, en 2013, c'était Ikai. Gundogan, ça fait un point pour... tout
ça
le monde.
Ça fait deux.
Oui, ça fait,
moi, j'ai zéro.
Ça fait deux, oui.
C'est moi, j'ai zéro.
2-1-0-0. Ah, il est au taquet.
Ah, j'ai gagné la semaine dernière, il faut que je fasse le doublé.
Ah oui, ok. Quel est le seul joueur à avoir remporté la Ligue des Champions avec trois clubs différents?
Seedorf.
J'allais le dire.
J'allais le dire aussi.
T'as les années?
Tu dois avoir... T'as du 2001?
Non.
Non? Non, mais laisse tomber. Je sais pas,
95,
98. Oui, 95 avec l'Ajax, le Barça.
Ah, 2007.
Ajax, Barça, et puis, ouais.
Avec l'AC Milan 2003 et 2007.
Ouais, et ah, donc 4,
ouais,
ok, ça. D'accord.
Ah, oui, 4,
là, ouais, mais avec 3
clubs.
Clubs
ouais, exactement. Ajax, voilà, Barça, donc ça fait un troisième point et pour Milan, Maxence.
Non, mais la question, elle est fausse, alors.
Bah non.
De quoi?
T'as pas dit gagner 3 Ligues des Champions?
Non, avec 3 clubs différents.
3 clubs différents. Qui a gagné la Ligue des Champions avec 3 clubs différents. À Jason, t'essaies de gratter un demi-point. Pour bon élève. Quel joueur a marqué le but le plus rapide de l'histoire d'une finale de Ligue des Champions?
Alors, attends.
C'est pas le PSG?
Non, c'est pas une équipe, c'est un joueur qui a marqué
le but. Oui, non, mais c'est pas un joueur du PSG?
Non.
C'est pas Crespo?
Non plus.
Maldini.
Maldini.
Putain, j'hésitais entre les deux. Ça a dit qu'il y avait marqué en premier.
C'est bien.
Quelle année c'était?
C'était Istanbul. C'était en 2007-2005.
Oui.
Le match fou face à Liverpool. Un plus belle finale de Coupe de Ligue des Champions.
Je pense que c'est la plus belle. 4 buts à 3 avec un back-to-back légendaire. On a deux matchs.
3-0, 3-3 et 3-3
après 3 buts, oui. 4-3.
Fabuleux.
Voilà. Mais voilà, oui, c'était tout simplement. Dernière question.
Ah oui, Maldini a marqué.
Quel joueur de l'Atlético de Madrid a loupé un penalty en finale?
Griezmann.
Vous m'avez pas laissé aller au bout. Voilà. C'est Griezmann et c'est Omar qui l'a dit.
Ah bah faut savoir.
Avant, il y a la VAR. C'est Omar qui l'a dit quelques secondes avant. Ça fait 2 points pour Omar.
Ah bah il est bien remonté, Omar.
3 pour Maxence. Un pour Philippe qui a sauvé l'honneur, mais Jason qui n'a pas sauvé l'honneur. C'est pas grave, on espère la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous messieurs, merci à Philippe, merci à Omar, merci à Jason, merci à Maxence, et merci à Jason qui a fait son retour aussi du côté de la technique, Jason qui nous avait manqué et qui est de retour, et merci à vous nos chers auditeurs et auditrices, et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, pour du football la semaine prochaine, encore du football, toujours du football.
Absolument.
Bonne soirée à vous. Yeah.